dans le tempo, c'est l'épisode 78. C'est parti. Dans le tempo. 173e lancement.
C'est le deuxième lancement seulement, Daz. Bienvenue dans DLT.
Oui, bienvenue
dans le podcast des passionnés de musique. Ça va, Daz ?
Ça va très bien. Et toi, Salman,
oui,
la pêche ?
Tout va bien, je suis content. Comme un mercredi sur deux, on retrouve les gens pour parler de
littéralement, hein, ouais. Mercredi sur deux.
Exactement.
Que les gens comprennent qu'on est vraiment mercredi quand on dit que c'est mercredi.
Et c'est vrai, on enregistre souvent le mercredi.
Voilà.
Et puis, à chaque fois, avec des invités incroyables.
Oui.
Des légendes, même parfois, Daz.
Des légendes incroyables aussi.
Des légendes incroyables aussi, on peut coller les
deux. Ouais, ouais, ouais.
C'est le cas, par exemple, de Céron.
Ah mais oui, ça alors. Ah bah il est là.
Il est là, incroyable.
Oh, c'est incroyable.
on est effectivement avec Marc Céron. C'est vrai, Marc.
Bonsoir.
Bienvenue.
Ravi d'être avec vous.
Bah, merci beaucoup.
On va passer un long moment ensemble alors.
Ouais.
6 heures, mais au montage on coupera un peu. On t'a prévenu que c'était 6 heures.
Qu'est-ce qu'on m'a dit, ouais.
Bon bah c'est bon, alors on est ensemble.
Alors franchement je suis fier, Daz, parce que je sais pas, est-ce que tu connais Wally Badarou, Marc ? C'est un musicien qui te parle ou pas ? Non.
Je suis pas sûr.
C'est
à l'écoute de la musique peut-être.
Ouais, mais c'est un monsieur.
J'ai un problème avec les noms, même avec les mecs avec qui je bosse.
Non, c'est un musicien qu'on a reçu il y a deux épisodes,
ouais.
Et qui lui aussi, franchement, est une légende de la musique. Il bossait notamment, tu sais, au Compass Studio, tu sais, au Bahamas, où ils ont enregistré avec Sly and Robbie, c'est les Jamaïcains, etc. Et il a une carrière absolument phénoménale. On a parlé justement pendant...
Pardon, donc je dois connaître quand même musicalement.
C'est possible. Ils ont enregistré beaucoup de Grace Jones, du Joe Cocker, du Mick Jagger, des trucs comme ça, tu vois.
D'accord.
Et il avait un parcours incroyable. Et je suis content qu'on fasse maintenant cette émission avec toi, parce que autre parcours incroyable, carrière riche, plus de 50 ans de carrière, je crois. C'est ça à peu près. Hein.
Mm-hmm. Ah, ça commence à faire.
Ça fait un demi-siècle.
Et moi, j'ai pas l'impression que ça passe tellement vite.
Ouais,
j'ai tellement de trucs à faire encore devant, là, que... J'évite de regarder dans le rétro.
C'est
alors,
bien aussi.
On va regarder un peu dans le rétro.
Mais
on
veut pas trop. Les médias n'arrêtent pas de m'en parler des rétros. Donc voilà quoi.
Ok, donc là déjà il a dit,
ne parlez pas.
parlez-moi du turfu. Okay.
On va parler aussi, promis, mais il faut quand même qu'on parle aussi de.
Faut contextualiser.
L'histoire, tu vois, qu'on contextualise et tout. Parce que t'as, je sais pas, j'ai pas réussi à compter, mais il y a plus d'une vingtaine d'albums derrière toi.
Ah oui.
Ouais.
Oui. Je crois sous mon nom.
Ouais, tu sais combien ?
J'ai passé la trentaine, 32,
ouais,
33.
Ouais.
Okay. Mais cela dit, le nombre de prods que j'ai fait à côté, que ce soit du Congas, que ce soit du Donnerai, que ce soit du Révélation, enfin j'en ai fait, waouh. Ça compte, je dois être à 50-60 albums.
Oh.
Mais j'ai passé ma vie en studio et je passe toujours ma vie encore en studio. Ouais. Le seul moment où j'en sors, c'est pour aller jouer sur scène. Donc je suis toujours, quoi qu'il en soit, dans la musique.
Et ce qui est fou, c'est que je disais vingtaine, tu me dis plus quasiment 60. Et puis, presque autant de tubes. Alors peut-être pas 60 tubes, mais,
non.
Mais bien une bonne dizaine, voire vingtaine de
une petite
morceaux.
Vingtaine, ouais. Une petite vingtaine, ouais.
Eh bien, on va tous les écouter maintenant.
Exactement, on se fait un medley tout de suite.
Vous non. Pouvez les écouter sans moi, puis après vous montez, non, c'est ça.
T'en as marre de certains de
non,
tes
non.
Tubes.
Non, bien sûr que non.
C'est vrai que 50 ans de carrière, quand même, t'as assisté à toutes les évolutions de la musique populaire.
Ouais, c'est souvent ce que je me dis avec des potes qui font le même métier que moi. De la même génération, on a quand même vécu des périodes, les périodes 70s, des périodes de fou, quoi.
Mmh.
Les 80s, et ce qu'on vit depuis les années 2000 aussi.
Là, oui, en termes de même.
Je dirais que les années 90, c'était moins révolutionnaire.
C'était dans la continuité de ce qui avait été placé avant.
Ouais. Et puis après, de se s'auto-pomper, de se chercher. Mais on n'invente plus rien, de toute façon, on s'inspire
oui, ça
tous
recycle,
de tout le monde.
Ouais.
On peut dire que tout a été inventé. Donc,
Ah ouais, tu te dis ça, toi ? Tu te dis,
Je pense qu'à chaque fois que je fais un truc, quand je suis content, je me dis « Ah, ça sonne tellement bien, c'est pas possible, ça me rappelle rien ou quoi que ce soit. » Quand t'as fait, je dois avoir fait 800 titres.
Ouais.
Je parle de titres enregistrés et sortis, quoi.
Oui,
donc à un moment donné, tu... T'as peur de te répéter, tu sais pas si tu l'as fait ou pas. Tout à l'heure, j'ai raconté une anecdote.
Ça, c'était pas mal.
mais
tu veux nous la raconter, juste, parce que c'est rigolote.
C'est vrai qu'elle est drôle.
Oui, ça m'est arrivé un jour, dans je sais plus quel pays, avec ma femme, on visitait dans un magasin, j'écoute un titre et je dis, tiens, c'est pas mal, ce truc-là. Et après, je me renseigne, qu'est-ce qu'il joue, est-ce que c'est une radio, est-ce que c'est enregistré à l'intérieur. Et en fait, il me donne le titre. C'était un titre à moi. Donc, tu vois,
en fait, ça dit quand même beaucoup de choses quand t'as tellement fait de trucs.
Tellement produit que tu sais même plus
que t'arrives à oublier que c'était morceau. Ouais, franchement, c'est quand même pas mal.
Bon, je parlais de tube, il y a évidemment le culte Supernature, c'est vraiment ce qui... À l'échelle internationale, c'est devenu mythique. On t'affilie d'ailleurs souvent à la scène disco, ce qui est une réalité. Tu t'es beaucoup, t'as beaucoup exercé dans le disco, mais c'est une grosse partie de ta carrière. Mais tu t'es aussi emparé du rock. D'ailleurs, c'est le cas.
Je viens de l'afro rock, ouais. Surtout avec avec Congas, ouais.
De l'électro aussi, bien évidemment.
L'électro est venu comme un ovni, un peu comme un accident. Ouais. Je tombais sur un synthé, fallait le découvrir, et j'ai découvert un séquenceur. Ouais. Mm-hmm. Et donc le séquenceur, j'ai commencé à composer, à l'époque c'était sur un Revox, c'est 4 pistes. Okay. Et puis, et comme tous mes enregistrements, je fais d'abord la batterie.
Parce que t'es batteur initialement, je précise juste.
Et la batterie, tu bouges, t'es pas...
Ouais, t'es pas droit.
Bah non, t'es pas droit. Donc il a fallu faire il a fallu que j'enregistre Supernature, après en 2000 vitesses, pour faire le séquenceur, parce que je le jouais à la batterie, donc, et ça bouge. Et ça a été un ovni, ce titre-là. Ça a été un peu bizarre, mais ça m'a ouvert des portes dans un style que j'adore, l'électro. Parce qu'au départ, j'ai démarré en rock, afro, avec deux percussionnistes de talent que j'ai gardé après comme musicien pendant près de 40 ans. Et quand ils partaient en solo dans notre show, il y avait un solo de perc qui pouvait durer 3 minutes, 10 minutes, suivant le feu qu'il y avait avec le public. Moi, j'étais à la batterie, je leur faisais une assise avec le pied tous les temps. Et en fait, c'est de là où, quand j'ai quitté le groupe et que je me suis mis en solo, pour mon premier album, Love in C Minor, je me suis dit, tiens, je vais reprendre ce plan, parce que j'ai envie de faire un titre très long, pas pour les radios, j'ai envie de produire de la musique pour les discothèques. C'était la naissance des discothèques, ouais. C'était 75 à peu près. Et on a été deux, trois mecs, comme Moroder, comme Nile Rodgers, à composer et produire de la musique qui était pour les clubs.
Ouais, d'abord quand, pour le club.
Hein. Ben oui, parce que c'est comme ça qu'est arrivée la disco, en fait. Ce mouvement. Je suis parti, je t'ai dit tout à l'heure, j'étais très bavard.
Hein. vas-y. Tout,
Daz, on va boire un café.
Ouais,
si je vous embête, par contre, je vous arrête. c'est quoi l'arrivée de la disco? C'est l'arrivée d'une musique pour les discothèques. Ouais. On a enlevé le mot tech. C'est devenu de la disco. Et c'est quoi la différence avec ce qui se passait avant? C'est ce qui se passait avant dans les clubs, qu'on appelait des nightclubs ou des clubs. C'était toutes les musiques, on entendait toutes les musiques qu'on entendait en radio, tous les tubes. Ouais. Ouais. Avec un DJ qui parlait tous les deux, trois titres, un peu comme certains. Et nous, non, on voulait surtout pas être dans les discothèques et écouter de la musique de radio. Ouais. Donc il fallait composer, il fallait produire, il y avait un vrai besoin. Et c'est comme ça que c'est parti. Et quand les discothèques sont partis, après ça.
Mais c'est un truc qui s'est fait de manière un peu organique. Je veux dire, il n'y avait pas un plan de se dire on va faire de la musique dédiée à la discothèque.
Ah, c'est... ça, je pense que pour toi, si.
Moi, si.
Ouais. Toi, si. Ouais.
Moi, vraiment, si. Ça, okay. Je te le confirme. Je le fais encore beaucoup. Ouais. Sauf que ça s'est détourné aujourd'hui, enfin, depuis 30 ans. Je fais plutôt de la musique pour ma scène. Mm-hmm. Et en fonction de comment ça se passe sur scène, je peaufine après en studio, mais je me fais des contenus presque. Et dans ce lot de centaines de titres que j'ai pu produire, oui, j'ai dû faire une vingtaine de tubes qui sont sortis. Mais ça, j'ai jamais fait dans le dire, tiens, j'ai le truc, j'ai le hook, ça va le faire, je vais taper dans le top 10. Jamais j'ai fonctionné comme ça. Ouais. La preuve, c'est que Love in C Minor, le premier album, 16 minutes 30 de long. Bah, c'est pas vraiment fait pour la radio, tu vois.
Ouais, clairement. Ouais.
Supernature, quand ce son très étrange est arrivé, Atlantique, chez qui j'étais à l'époque, me disait, mais attends, on t'a installé depuis ton troisième album. T'es toujours venu avec des cordes, des cuivres, des grosses orchestrations. Qu'est-ce que tu viens faire avec ça?
Et justement, il y avait des gens qui étaient, comme tu le disais là pour Atlantique, mais des gens avec qui tu bossais qui comprenaient pas forcément la direction que tu prenais ou...
Ouais, mais je suis allé au bout d'un truc, puis après j'étais extrêmement bien entouré.
Ouais, ok.
Et ça, c'est très important. Lena Lovitch, avec qui on a peaufiné le texte, moi je lui ai donné une idée de fantastique. J'étais pas vraiment dans l'écolo, aujourd'hui ça veut dire de l'écolo, mais c'était plutôt du fantastique. J'avais été marqué par un film, L'île du docteur Moreau.
Ouais, bien sûr.
Et donc j'ai commencé à lui raconter des histoires comme ça. Le Supernature, c'était en fin de compte, comme je savais pas ce que je faisais, je savais même pas si ça allait devenir un titre. Ouais. J'ai mon label qui s'appelle Maligator, c'est le même nombre de pieds. Donc je donne à Léna, ça va s'appeler Maligator. Donc c'est l'Afrique, mais avec du synthé, ça va être bizarre, faut rester dans le côté bizarre. Mmh. Elle me revient avec un titre différent, ça s'appelle Supernature. Bravo. J'ai eu des mecs comme Don Ray, un mec de talent qui me faisait des arrangements. J'ai eu des mecs comme Georges Reddy qui étaient des programmateurs de synthé, de fous. Ils sortaient des sons, surtout que c'était nouveau.
Ouais, donc il y avait tout à faire.
Ou comme des mecs, des bidouilleurs, mais de talent, qui ont eu une place importante dans cette création. Un mec qui s'appelle Alain Wisniak, qui était un bidouilleur de son, il était surtout dans la pub avant, donc il amenait des hooks. On était toute une bande de tarés, mais on partait pas. L'album, il était fait, c'était Give Me Love, le single de l'album. On partait pour j'avais envie de faire un truc en plus. Que j'avais fait avec mon Revox, et c'est bizarre, j'ai envie d'aller au bout, j'ai envie de pousser ce truc. C'est devenu Supernature.
Donc oui, on l'a dit, discographie impressionnante, là tu peux parler de Supernature, donc ce morceau culte. Et puis en plus, il y a un truc aussi qui t'a permis, mine de rien, de rester toujours pertinent dans la musique, c'est le fait qu'on t'ait rendu hommage énormément aussi. Je pense évidemment à travers le sampling, à travers les remixes, etc. Que ce soit les trucs récents comme Jamie XX, comme Disclosure, mais aussi des trucs un peu plus anciens, des A-Track, des Lifelike, des Armand Van Helden, Bob Sinclair évidemment, Alan Braque, etc. Tous ces gens t'ont remixé. D'ailleurs, globalement, on dit souvent que tu es un peu les prémices de la vague French Touch, qu'ils te doivent beaucoup. Toi, tu rajoutes d'ailleurs que tu leur dois beaucoup aussi, parce qu'ils t'ont remis aussi...
Oui, parce que moi, j'étais parti pendant... Ça a duré une bonne quinzaine d'années, et je me suis éclaté à faire. Je suis parti à produire des grands événements, des grands spectacles. En 89, pour la Révolution française, le bicentenaire. À Tokyo, un an après, pour le...
Figure-toi que Wally Badarou a bossé sur le bicentenaire aussi.
Ouais.
Vous êtes croisés.
J'ai fait le concert à la Concorde, pardon. Ouais. L'année d'après, je faisais à Tokyo pour le lancement les 1h20, première minute des premières émissions HD, okay. Lancement du premier satellite HD. C'est des gros projets avec des moyens, tu mets 2 ans à faire ça.
C'était en 90.
Très créatif musicalement. Ce que j'adore aussi, c'est.
Tu composais spécifiquement pour ces événements?
Ah, bah oui, c'est un peu comme une comédie musicale. Avant la mode des comédies musicales, c'est en 89. J'ai fait plein de trucs. J'ai fait des trucs avec le Dalai Lama où je lui ai demandé de faire les textes. Il m'a fait les textes. J'ai pris Montserrat Caballé pour ouvrir le spectacle sur de la house. J'étais très house à l'époque avec du texte Dalai Lama. J'ai fait ça à Nice. Ça a été un beau carton. J'ai fait un peu partout dans le monde. L'arrivée du Millennium à Los Angeles et Hollywood. J'ai produit ça pour la ville. Je te dis, c'est 2 ans de projet. Et de travail, et un peu comme l'équipe qui a travaillé sur les JO là, pendant 2 ans. Et parallèlement à ça, à partir des années 80, les premiers, c'était Run DMC, si tu vois ce que c'est. C'était mon premier sample.
En 86, avec Hate It.
82, mon premier single.
Ah ouais, parce que je pensais qu'il t'avait samplé en 86.
Non, peut-être que c'est toi qui as raison, je peux encore me tromper. Mais c'est dans les années 80 en tout cas.
Ouais.
Et moi, on me le disait, parce que ça a été un gros tube. Et c'était vraiment ma drums, ma façon de jouer qu'ils avaient samplé.
Ils ont pris Rocket Pocket, un truc comme ça.
Rocket in the Pocket, c'est ça. Exact. Et moi, ça m'a flatté, j'ai laissé faire. J'étais dans des beaux projets, je m'éclatais, tout va bien. Et puis, il y en a eu 10, 20, 30, puis il y en a eu beaucoup. Puis il y en a eu une cinquantaine, 80, qui m'ont associé à des tubes qui ont été des hits. Ouais. Et évidemment, bon là, j'ai commencé à réagir. J'ai un fils, Greg, qui vit à Los Angeles et qui est aussi un producteur de musique. Il me dit, papa, tu peux pas laisser faire ça et s'il y a ça. Et ma maison de disques me dit, mais attends, c'était large, quoi. Donc, comme moi, j'étais occupé, je leur ai dit, allez-y,
négociez,
arrangez-vous. Et c'est ça a commencé vers les années 93-14. À part les Run DMC et 3 autres, 4 autres qui se sont baladés dans les années 80. Ouais. Et à ce moment-là, je crois que c'est en 98, fin 98, je reçois un courrier de Paul McCartney, Sir Paul McCartney, avec un papier en tête gonflé sur McCartney, et avec un CD dedans, et il me dit, écoute, avec mon équipe, on a pris ton instrumental, un titre qui s'appelle You Are The One, qui a été la Starac pendant 5 ans d'ailleurs, le même titre.
Okay.
Et il me dit, on a mis ça avec mes voix de Good Night Tonight, avec son groupe de Wings. Okay. J'écoute ça, je fais wow. Et qu'est-ce qu'il veut? Donc je continue de lire le courrier. Il me dit, si t'es d'accord, on fait 50-50 surtout. Du coup, j'ai donné à mes équipes, voilà le modèle, vous rattrapez tout. Et puis, et on a tout rattrapé. Enfin, tout rattrapé, les trucs qui valaient le coup d'être rattrapés.
Mais parce que du coup, les gens te samplaient en se disant, c'est de la musique fin 70s, début 80s. peut-être que c'est du sample tranquille.
Bah, genre... Il se rendait pas compte, ouais. Si tu veux. C'est quoi un sample? C'est un bout de musique qui peut faire deux mesures, trois mesures, ouais. Enfin plutôt en paire, deux, quatre, et bouclé. Donc eux, je me souviens quand Bob Sinclair est venu me voir avec son premier single, qui s'appelait I Feel For You. Il me dit, j'ai pris vraiment, c'est une seconde et demie. Oui, mais une seconde et demie, ça fait deux mesures, ouais. Multiplié par 350,
tout le morceau, ouais.
Ça fait 4 minutes de longueur.
Ouais.
C'est la même chose. Ouais. Bref, ça a été son premier single, mais on a éclairé tout ça. Et après, ouais, vers les fin des années 90, les Daft m'ont dit, ils sont venus me voir, on a samplé, on voudrait éclairer. Je savais que c'était samplé.
Ouais.
Je laissais faire, je te dis, les équipes, moi j'étais
pour
très
quel
occupé.
Quel morceau, tu te rappelles?
Leur premier album qui s'appelle
Homework.
Qui s'appelle, je me rappelle plus.
Homework, le premier album, non?
Non. Oui, mais le titre.
Ah, le morceau spécifiquement.
Tu sais ce que tu fais? Tu vas sur, pour ceux qui nous écoutent d'ailleurs, vous allez sur le web, vous faites, tu tapes Seron Sample. Tu vas voir la liste. Tu vas tout avoir.
Mais ça veut dire que toi, globalement, t'acceptais tous les. Il n'y a jamais un truc où tu t'es dit non, là, j'ai pas
non,
envie
là,
d'être
associé. Je te parle des trucs qu'on a rattrapés.
Oui, ah oui, d'accord, enfin, okay. C'est déjà fait. Ouais.
Ensuite, tout ce qui est venu, le nombre que j'ai accepté, pas la moitié.
Ok.
Parce qu'il y en a, c'est vraiment de, pipo, quoi. C'est du, il t'accélère, il te filtre, ou il te change de tonalité.
Oui, il travaille pas en fait.
Ouais. C'est de la merde, quoi. C'est non.
Ok.
Il y en a beaucoup.
Ok. Ouais. Donc toi, en fait,
plus du moins au niveau de mes oreilles, est-ce que j'ai envie d'entendre. Ouais. Mais la plupart de tout ce que j'ai accepté.
Je suis
très fier d'avoir été associé avec McCartney, que ce soit Bob Sinclair, que ce soit les Daft, que ce soit Lionel Richie.
Qu'il y ait quand même un travail, un minimum de taf fait sur l'original.
Sample, quand tu vois les Daft, comment le nombre de samples, comment s'appelle ce titre avec Benjamin Diamond,
Stardust.
Je connais le bout qu'ils ont chopé. Putain, fallait le choper.
Ouais.
Fallait avoir l'idée.
Ouais, donc il y a quand même ce côté.
Et la mélo qu'ils ont rajouté dessus et le son de voix, c'est de la création.
Il y avait du taf, quoi.
Ouais.
C'était pas juste pitcher le truc. Et...
Un sample est là, en fait, pour t'inspirer. Si c'est le sample au départ, cette boucle que tu écoutes sans cesse, qui t'inspire, du coup tu mets une nouvelle basse, du coup tu commences à construire, ça s'appelle l'inspiration. C'est ce qu'il y a le plus difficile à avoir dans ce métier.
Tu sais qu'il y a pas mal de beatmakers qui compose à la base avec un sample, il garde ce côté un peu historique de la production à base de sample, et ensuite, comme ça se fait de moins en moins, c'est une galère de droit, etc.
Ils enlèvent le sample,
effectivement, mais ils le gardent quand même comme inspiration.
Tu viens de dire exactement ce que je disais juste avant, ça s'appelle de l'inspiration.
Ouais,
ils vont chercher l'inspiration, après ils virent l'inspiration, parce que du coup ils mettent, voilà.
On va parler de tout ça, on va revenir sur une bonne partie de ta carrière.
Après, faut dire un peu, sans vouloir développer par rapport au sample, combien de fois moi j'ai dit au mec, pourquoi vous le refaites pas? Ça va vous coûter 50%, je rigole pas, je veux 50% de tout. Et souvent il me disait, on l'a refait. Et quelquefois, obligé d'envoyer à la SACEM, ils ont un algorithme, je sais pas comment on peut appeler ça, qui s'appelle le spectre.
Okay.
Ils passent le truc par la texture. Ils te disent, ça vient de tel enregistrement sorti en telle année numéro. C'est incroyable.
Ah, c'est balèze. Ah,
Et donc toi,
c'est de l'enquête.
C'est de l'enquête.
C'est-à-dire qu'il y a des gens qui tu leur disais, refaites-le. Ils disaient, on l'a rejoué, on l'a refait. Oui, mais en fait, pas du tout, quoi.
Et puis simplement que j'ai aussi une équipe qui s'en occupait. J'étais pas derrière. Alors, combien ça a vendu? Non, je suis pas là-dedans. Je suis pas philanthrope, mais je suis pas là-dedans non plus.
Commençons avec peut-être tes débuts et la découverte du disco. Pour toi, mais parce qu'il faut parler de Congas, en fait. Parce que tu le dis, je t'ai entendu le dire, ça a été très formateur pour toi. C'est là que tu as appris ton métier.
Complètement.
Ça a été... Et puis d'ailleurs, tu trouves que le disque Congas, c'est un disque important, même pour toi encore.
Mais Congas, j'ai tiré mon ADN de...
Tu nous racontes.
Parce en plus des rapports, des rapports humains et d'échanges artistiques, j'entends, tels que quelques années après. Deux membres, les deux fameux percussionnistes m'ont rejoint en tant que musicien. C'est difficile quand t'as été un groupe.
Ouais.
on partage tout, et puis d'un coup, tu viens un musicien d'un des mecs avec qui tu étais dans le groupe.
J'imagine que ça, on va en discuter, mais moi, c'est ce qui m'intéresse aussi, c'est de comprendre pourquoi la volonté du solo, alors que tu es dans un groupe, tout se passe bien a priori ou...
Alors, déjà, juste bonne question, elle va être un peu longue la réponse, mais bonne question.
Okay. Parce que juste pour recontextualiser, pour les gens qui ne connaissent pas l'histoire forcément, on est au début des années 70 à peu près, là, le groupe se forme en 72, si je ne dis pas de bêtises.
Alors, Congas date de 72. Alors, si vous voulez vraiment le...
Bah, juste, en fait, en gros, tu bosses au Club Med, tu rencontres des musiciens.
Alors, Club Med, ça me permet, par accident, je n'avais pas où dormir, j'avais fugué, donc le Club Med m'engage, parce qu'un soir, devant Trigano, la copine avec qui j'étais de l'époque partait en village, donc 48 heures avant, il réunissait un petit peu les familles ou les amis, et je faisais un peu la tronche, et Gilbert Trigano, qui était très... très accessible, quoi. Il vient me voir, il me fait, oh, il est pas content. Ben, je lui dis, non, vous m'enlevez ma copine, je sais même plus où je vais dormir. Il me dit, bah, viens au club. Pourquoi tu viens pas au club?
C'était vraiment flex à l'époque, dis... quoi.
Ah ouais, bien sûr. Et je dis, c'était avant les bronzés, ça, tu vois. C'était... Ouais. Et je dis, ben, non, moi, je fais de la musique, je veux pas arrêter de faire de la musique. Par contre, vous, pourquoi vous prenez pas des musiciens? Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de musiciens? Ben, mais non, vous montez un groupe. J'imagine vous avez des piscines autour de la piscine au pot le soir avant de dîner.
On sonorise tout ça.
Et il le faisait pas. Et il me dit, comment tu ferais ça? Mais ça s'est fait en 7 minutes. Ben, je dis, c'est simple, on fait un répertoire qu'on choisit. On prend 10 bassistes, 10 batteurs, 10 claviers, on les fait répéter. Dès qu'il y en a un qui est prêt, c'est à vous de l'envoyer où vous voulez. Et il me dit, tu saurais faire ça? Ben, je dis, bah ouais, c'est assez simple. Et il appelle un mec, il me présente, on prend rendez-vous le lendemain, enfin bref, je suis devenu pendant, ça a duré 3 saisons, 1 an et demi, j'ai fait 3 saisons de Club Med. Mais par contre là, ça m'a permis de sélectionner les bons musiciens que j'avais repérés. À un moment donné, je quitte le club, je demande, est-ce que vous me suivez? On quitte le club, et parce qu'ils étaient dans différents pays, différents, tu vois, que j'arrivais à faire croiser quelques fois. On monte un groupe, on monte un répertoire. Arrivé au mois de juin, on se dit fin juin, rendez-vous au mois de septembre. Moi, je vais me débrouiller, on va trouver un agent. Je me posais pas la question si j'allais réussir ou pas. Je me suis jamais dans ma vie. Des fois, c'est prétentieux. Du moment que c'est pas pipeau et mytho, c'est plus mégalo.
Mais quand ça, c'est acceptable.
Mégalo. Ça passe.
Tout à fait, je reconnais. Et je me suis pas posé la question si j'allais réussir ou pas. Et pendant les 2 mois juillet-août, avec une copine, je lui dis, tiens, tu sais quoi, on va aller à Saint-Trope, je vais faire les sauts de batterie sur le port, on va faire la manche. Tu prends un chapeau melon, tu fais la quête, je fais les sauts de batterie. Enfin, aujourd'hui, je serais, comment on peut oser faire des trucs comme ça? Mais je l'ai fait, et ça s'est superbement bien passé. Et on arrive à fin juillet, un truc comme ça, et Eddie Barclay, qui était à l'époque le monsieur qu'il fallait avoir la chance de rencontrer.
Un producteur, donc.
Bien sûr. Producteur, c'était
le soirée blanche.
C'est lui qui a amené le single. C'est lui qui a sorti le single au monde. Qu'avait Quincy Jones, qu'avait Ray Charles, qu'avait un gros catalogue, hein. Et il vient me voir, il vient au Sénéquier, c'était le café de
Saint-Trope.
Parle de Saint-Trope. Ouais. Il met un petit papier dans le chapeau long de ma copine qui vient me voir, il me dit, dis donc, on savait qu'il était là déjà depuis 2-3 soirs, un papier qui disait, rejoignez-moi quand vous avez terminé. Donc, je termine avec toute la ringardise, tu sais, tu plies ta batterie, tu la mets dans le coin du mur et tout, et puis tu vas le voir à table et tout. Bref, ça se passe très bien et il m'invite à déjeuner le lendemain, puis il me dit, écoute, j'ai une idée, tu joues bien, t'as du charisme, ça marche, j'ai une idée. Ça fait 3 fois que je viens te voir, j'ai une idée, il faut qu'on vienne, viens déjeuner avec moi, je vais te parler d'un truc. J'y vais le lendemain, c'était incroyable, tous ces artistes qui étaient autour de, dans son jardin et dans la piscine. Et il me propose de monter un groupe. Et là, je lui dis, mais non, j'ai un groupe. Et je parle de Congas. Et je lui dis, donnez-moi ma chance, on fait descendre le groupe, il y en a pour 3-4 jours, et on fait une audition au Papagayo, le fameux gros club qui était l'un des clubs européens où toutes les stars passaient. Fallait passer par le Papagayo. Et ça marche tellement bien, c'est qu'à la fin du mois d'août, on signe le contrat avec Barclay. En novembre, on sort le premier single, ça fait 52 ans.
Incroyable. Il y a une trajectoire. Il y a un premier album qui arrive vite. C'est quoi, c'est 74 le premier album? J'ai une bêtise.
Non, premier album, c'est premier single, c'est fin 72. Premier album, 73.
73 même, ok. Donc c'est le qui s'appelle Congas d'ailleurs.
Qui s'appelle Congas, bien sûr. Au bout de 3 ans, on faisait quoi, 250 galas par an. On pouvait plus. On pouvait plus. En 75, je décide d'arrêter.
D'accord.
Ras-le-bol.
On s'écoute un extrait juste pour voir à quoi ça ressemble, Congas.
Ouais.
Sur le premier.
Dommage parce que j'étais parti dans mon élan là.
Ouais, c'est vrai. Mais après tu vas partir en solo, très cool. Mais il faut qu'on écoute quand même Congas aussi.
Okay.
Un peu à quoi ça ressemble.
Quel titre t'as choisi là?
Bah, moi, il y en a plusieurs que j'aime bien sur le premier album. Il y a Annika Nao que j'aime bien. Il y a Congas Fun. Il y a Ring on the Bell. Il y a Sweet Drums. Pourquoi Sweet Drums? Parce que c'est un solo de batterie quoi. Mais peut-être c'est pas le plus représentatif. Je sais pas. Toi, qu'est-ce que t'aurais envie d'écouter de ce premier album? T'as une idée?
Oh là, ça fait longtemps que j'ai pas écouté.
Ouais.
Non, je suis.
Allez, Ring on the Bell, allez. Ou Annika Nao.
Annika Nao, c'était le premier single.
Bah oui. Bon, allez, on s'écoute ça alors, c'est parti.
Attends, ouais, parce que c'est vas-y. Ça qui est quand même. Donc, tu joues de la batterie à Saint-Trope, t'es repéré par Barclay, tu lui dis, moi j'ai déjà un groupe, lui il dit, ok.
Fais voir.
Et c'est fais comme écouter. Ça que, voilà, c'est-à-dire que.
Et c'est parti.
Il n'y a aucune volonté de Barclay d'influer sur l'artistique, sur la.
Il n'avait aucune raison, il n'avait rien à perdre. Hein. Okay. Le premier soir, on jouait en deuxième partie, ce qu'on appelle de soirée, genre à 3h du matin.
Ouais.
On avait 20 minutes à jouer, genre 4-5 titres.
Ouais.
Fallait le faire. Et on l'a fait. Donc le directeur nous dit tiens, si tu veux, il dit à Barclay, si tu veux, je les reprends demain. Puis demain, le lendemain, on a fait deux passages.
D'accord.
Et puis après, on a viré tout le monde. On a pris la place, quoi.
Ah, c'est ouf.
Et donc, disais-je,
ouais.
C'est au bout de 3 ans, ras-le-bol, j'arrête.
C'était quoi? C'était le côté groupe? C'était la cohabitation avec les gens qui était compliquée?
Comme on dit, un breakout, presque. Tu vois, ouais, c'était.
Un nervous breakdown.
Trop de dates, trop de tout. Trop de tout, trop de concerts, trop de pas assez de nuit dormir, trop de
mais du coup,
trop de déconnades, trop de défonces, trop de. On était dans une période où c'était peace and love, hein, c'était très c'était très libéral.
Ça se la donnait un peu, ouais.
Ouais, c'était un peu trop beaucoup.
Mais du coup, toi, quand tu crées le groupe, t'étais ok avec ce truc-là aussi, de te dire bah si ça marche, ça marche. Enfin, je veux dire, est-ce que tu t'étais mis une limite ou
bah, toute ma vie, moi, j'ai toute ma vie, c'est pas quelque chose que j'ai adapté, que j'ai, je me dis ça va se passer comme ça ou quoi que ce soit, ou appliqué, tu vois.
Oui, c'est au gré du vent.
Je me suis jamais posé la question si ça allait marcher ou pas. Je voulais le faire, donc ça, on va le faire.
Ok.
Mais je me suis jamais dit ça va faire un carton. Le succès de Congas pendant 3 ans, on a été aux États-Unis, on était au Japon, et à l'époque, des groupes français qui le faisaient, il n'y en avait pas.
Il n'y en avait pas, ouais.
Beaucoup de succès, on ne s'attendait pas à ce succès.
C'est si rapide.
Ah, c'est immédiat.
C'est fou.
Immédiat. Le premier single est sorti au Japon, ça a été un hit au Japon, c'est parti. On est sorti quoi, quelques mois après dans une maison de disques qui s'appelait Buddha Records. Ça a été très très vite.
Comment t'expliques ça?
Bah, c'est que c'était pas trop mauvais, quoi.
Ouais, mais il y a plein de trucs bien qui connaissent pas. Non, mais il y a plein de trucs bien qui connaissent pas forcément un tel succès
d'un
coup.
Oui, mais comme tout ce que j'ai essayé de garder toute ma carrière, c'est d'avoir un son, d'avoir une entité. On avait une culture dans les années 70, que ce soit dans la musique, que ce soit dans la mode,
dans la vie, quoi, globalement.
Dans la vie, presque. Ouais. On avait un leitmotiv, c'est-à-dire de tout faire pour éviter de ressembler à l'autre. Donc, il fallait être original. Pour être original, ça veut dire qu'il faut être osé. Et oser, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est entre la mytho et la mégalo, quoi. C'est, sauf que la mytho, il y rêve, alors que l'autre, il y va, il bosse, quoi. Il délivre. Donc, je veux absolument arriver à là. En 75, je dis j'arrête. Ça t'embête pas, hein?
Non, vas-y.
Mais du coup, les membres du groupe, ils.
Parce le groupe, il explose.
Ils prennent
un autre batteur, ils me font la gueule, ils prennent un autre batteur.
D'accord.
Et moi, je le dis, tiens, il n'y a aucun problème, il n'a qu'à répéter avec ma batterie, d'ailleurs. Moi, j'arrête la musique. J'arrête pas Congas pour faire autre chose.
Ah oui, d'accord.
J'arrête la musique. Donc, on s'est pas fâché.
Ouais.
Sauf que le groupe, ça n'a pas tenu. Pourquoi ça n'a pas tenu? Tu m'as pas posé la question, mais voilà. parce que le groupe a terminé au bout de quelques semaines.
Ah oui, carrément.
Et moi, au bout d'un an, j'avais un mal de musique. C'était pas possible, quoi. J'avais fait le con. Alors, j'avais monté des magasins de disques.
Ok.
Pour rester dans la musique.
D'accord, tu arrêtes la musique, mais tu restes dans la musique.
Je monte un petit magasin de disques, genre de 25 mètres carrés, à la gare de Vitry-sur-Seine.
Ok, 9-4, on est là.
Pour bénéficier, tu sais, à la sortie des trains à partir de 17-18 heures. Et puis, je vendais des disques import. Ça s'appelait import musique.
Ok.
Et j'avais pas les moyens de dealer avec les maisons de disques pour avoir les disques français de Brassens ou quoi que ce soit. Je voulais pas aller là-dedans.
Ouais.
J'étais vraiment dans l'international. Donc, je mets le nom de ma boutique Import Musique et j'achète des disques par des grossistes anglais ou américains. Et ça cartonne. Et je découvre un grossiste à Rungis, un gros grossiste qui desservait beaucoup de magasins et qui faisait beaucoup d'imports aussi. Donc je commence à acheter chez lui, puis je lui dis, vous devriez, faut acheter ci, faut acheter ça. Je me documentais beaucoup. Et puis il a vu que ça fonctionnait. Et, au bout de 5-6 mois, il me dit, mais c'est formidable cette idée. Pourquoi vous montez pas un magasin dans un centre commercial? Centre commercial, c'est quoi? Il me parlait d'un centre qui allait se monter, qui allait ouvrir 5-6 mois après, qui s'appelait à Belle Épine.
Bien sûr.
Le centre commercial de Belle Épine. Il me dit, trouve une surface et puis et monte une grosse. J'ai dit, mais j'aurais jamais les moyens de me payer le stock.
Ouais.
Déjà, le stock, c'est énorme. Et il me dit, mais si tu trouves la surface, je t'invite à déjeuner.
On bosse ensemble.
J'y suis allé comme un fou, j'ai trouvé la surface. Je ne vais pas vous développer, ça a duré du temps. J'ai trouvé la surface, j'ai ouvert en plein centre du centre à Belle Épine un port musique. Cartonné. 4 mois après, Ronny Soubois m'appelait, à part les deux, j'en ai monté 5.
D'accord.
Ah ouais, c'est devenu un vrai business.
C'est devenu très gros. C'est devenu la chaîne Nuggets.
Ah, bien sûr.
Qui est devenu les Fnac.
Bien sûr, les Nuggets.
T'as revendu ou t'as...
Alors attends, parce que là, on va vite. Hein.
Ouais. Parce qu'il y a tellement de trucs dans ta vie, t'es une vie riche.
Parce que donc, c'est devenu très gros.
Ouais.
Bon, et là, j'ai toujours eu, j'ai un petit talent quelque part, j'ai toujours su m'entourer de gens qu'il fallait et garder l'équipe. Et donc, parce que là, j'avais des équipes, ça cartonnait. Ce Francisco Sou, la DCG, ça s'appelait, cet associé. Moi, je dis, tiens, je vais faire un album. Et je décide de faire Love in C Minor. Je décide de prendre ma façon de jouer sur Congas, de pondre un gimmick de basse, plein d'éléments. Je rencontre un mec qui s'appelle Alec Constantinos, qui faisait des textes de Congas. Tu veux pas m'aider? Il savait que j'étais dans les magasins. Mais qu'est-ce que tu t'emmerdes et tout? Mais je fais ça pour moi. On va faire un peu de vinyle. Je vais peut-être les vendre dans mes magasins.
Ah, pas mal, pas mal.
Ouais. Voilà.
Tu vends
évidemment,
dans tes
boutiques. Fais l'album. On trouve. Il me présente un mec qui s'appelle Raymond Donnez, le fameux Donneray.
Ouais.
Qui aimait bien le côté R&B, soul américain. Je voulais sonner comme ça. Je suis rêvé avec des modèles d'albums comme je veux. J'aimerais avoir des cordes à la Barry White. J'ai mis un Barry White. Bref, donc je fais un travail de producer, ce qu'on appelle. Évidemment, je sors de Trident à Londres. Avec me présente Trident, le studio qu'il fallait avoir. Et je fais évidemment les 7 maisons de disques major qui savaient que j'avais la chaîne. Donc les portes étaient grandes ouvertes.
Oui.
Tu vois, c'était plutôt favorable.
Oui, tu peux vendre toi-même ta musique dans tes magasins.
Parce qu'ils voulaient tous maintenant que j'achète les stocks de mes magasins. Et ça dépotait beaucoup, hein. Passer en direct, alors que moi j'étais fidèle avec mon
grossiste.
Bah oui, c'était mon associé. Et personne n'a voulu le signer. Donc je me dis, allez.
Pour des raisons artistiques, c'est-à-dire que
ils m'ont dit, au départ, ils m'ont dit, qu'est-ce que c'est que cette batterie? Qu'est-ce que c'est que ce batterie? Ce pied en avant, ça fait mal aux oreilles. Puis 16 minutes 30, comment on va mettre ça en radio? J'essaye de leur expliquer, c'est pas pour la radio, j'essaye de leur expliquer ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la disco, c'est un bon mouvement qui arrive.
Ouais.
Moi j'y crois, en tout cas ça me plaît, et puis c'est tout, je vais en fabriquer 100 disques et 100 vinyles, on va les vendre dans mes magasins, puis voilà, pour mon plaisir. Sauf que Highland Music qui me fait le printing des disques, il me dit pas moins de 5000. On fait pas moins de 5000.
Ouais.
On fait 5000. Et puis dans les réserves des magasins, bah, je commence à faire ouvrir un carton. Puis on commence en 25, 10, 15. Putain.
T'avais les fonds d'ailleurs pour presser tous ces vinyles?
Non, je les fais presser par une maison de disques qui s'appelle Highland.
Ah, c'est eux qui avancent les fonds. Okay.
Non, pas du tout. Non. C'est eux qui fabriquent.
Ah, ils fabriquent directement.
Moi, je les ai payés, ces gens-là.
Oui, donc
ils m'ont dit 5 000 albums, peut-être ça vaut 10 000 euros. Voilà,
ouais,
ou,
ouais.
100 000 balles, puisque ça prend. C'était... Donc, j'ai fait livrer mes disques à mon magasin. Et comme mon magasin m'avait déjà attiré beaucoup de petits revendeurs, comme des champs disques et des choses, tu vois, des magasins qui vendaient aussi ouais. de l'import, grâce à moi, où j'achetais des stocks, quand il y avait un Barry White qui sortait, j'en achetais 4-5 000.
Ah oui, d'accord.
Les mecs, ils en achetaient 30, donc ils passaient en direct. Et puis, en fin de compte, un de mes mecs dans les magasins a dit, ben voilà, en nouveauté, on a un import anglais. Tac. C'est parti comme ça, la Vinci Minor. Puis d'un seul coup, les gens ont commencé à rappeler. Et c'est parti en boule de neige. C'est parti par plusieurs choses, des magasins qui ont renvoyé acheter des grossistes à New York des disques invendus, quoi que ce soit, ils se sont trompés, ils ont mis les miens, enfin bref, ça a tourné.
Oui.
Ça a été un peu comme Congas, en deux mois et demi, je me retrouvais devant Atlantique à Londres, à New York. Et je suis arrivé à New York, j'ai pris la plus grosse en ce nom, pour savoir. Après, je redescendrai si j'y arrive pas.
Mm.
Bon, il a fallu prouver ça. Bon, j'avais quand même une petite carrière de congas dont je me servais. Je sortais pas comme ça.
De nulle part. Ouais.
De nulle part.
Ouais.
Et l'album est sorti chez Atlantic, je crois, en février. Ça a été très très vite. Boum, 3 millions d'albums.
Ah oui.
Donc là, mon associé de magasin, il me dit, tu vas tenir. Je lui dis, mais oui, ça va s'arrêter dans un an, dans 6 mois. Ça va pas tenir. Mais on me demande de faire un deuxième album, Paradise. L'album avec la nana sur le frigidaire. Et Paradise, boum, pareil. Mon associé des magasins me dit, bon, bah là, ça, j'ai compris. Je te dis que ça va s'arrêter. Sauf que je ponds Supernature derrière. Et là, ça fait boum, 5 Grammys. Enfin bref, ça fait vraiment boum.
Ouais. Et donc là, l'associé, là, il dit, bon, ça y est, c'est
vendu. Non, j'y ai vendu mes parts.
Ouais.
Et il a transformé la raison sociale en Nuggets.
Ouais.
Et là, il en a monté, je crois, 80 ou 100.
Ouais, Nuggets, c'était dans c'était le magasin.
Et après Nuggets, il y a la Fnac qui est arrivée. Et la Fnac a absorbé Nuggets. Ouais. C'était voilà.
Alors, t'as cité 3 albums. On peut s'écouter un extrait quand même un peu de chaque au moins. Alors tu parles de Love in C Minor, donc ton premier album, avec le morceau de plus de 16 minutes dont tu parlais. On peut s'écouter un extrait pour voir à quoi ça ressemble.
Mm-hmm.
Allez, je vais avancer un peu parce qu'au début ça discute.
Ah, puis il y a plein d'anecdotes.
Tu veux, vas-y.
Une réussite, elle n'est pas faite comme ça, on décide, bonjour, 1, 2, 3, 4. C'est toutes les opportunités, les anecdotes qui se mettent au milieu.
Mmh.
Et une fois qu'on aura écouté un petit peu de Love in C Minor, je t'expliquerai l'anecdote qui a fait grande différence.
Et tu sais quoi? Parce que là, ça continue à tourner, on s'écoute, et puis on continue à discuter, ça enregistre dans tous les cas.
L'anecdote, quand j'en...
Donc là, ça discute, j'avance un petit peu.
Les cordes à la Barry White.
Ouais.
Le beat à la congas.
Four on the floor.
Du côté shaft aussi, non?
Et tu sais qu'on considère que Isaac Hayes, tu parlais aussi de Barry White, font une espèce de proto-disco, vraiment avant que ça arrive vraiment.
Mm.
Une anecdote.
Et alors l'anecdote qui a vraiment amené une différence, surtout dans la période qui était très libérale, la communauté gay s'est engouffrée là-dedans, New York, ça devenait vraiment... moi c'était Love Me, il n'y avait pas des râles féminins, il n'y avait pas tout ça. Sauf que quand j'ai enregistré à Trident, déjà pour enregistrer la batterie, je suis arrivé, il y avait la console avec deux petits Eraton, tu sais, le petit haut-parleur de gauche et droite pour la stéréo. Je venais de Congas, rock, scène. J'ai dit, mais moi, je n'enregistre pas avec ça. J'ai commandé 2 tours de son comme si c'était sur scène.
Ouais.
Bon, et très, très fort. Et dans le même studio, dans le même building, il y avait Phil Collins, C'était surtout Peter Gabriel qui était, Phil Collins était le batteur, c'était Genesis.
Genesis, ouais.
Et il y avait Elton John, et on se partageait un peu les pièces, jouer au ping-pong, tu sais, pendant les pauses, et c'est ça. Et ils me prenaient un peu pour un taré. De mettre en une journée, ils ont entendu. Parce que je voulais vraiment que ça soit carré.
Ouais.
Donc j'ai joué avec la grosse caisse seule.
Ouais.
J'ai enlevé tout le reste pour que le son soit pur. J'avais un clic dans la tête, mais au bout de 10 secondes, 3 secondes, le clic, ouais, tu le perds. Donc on remontait. Puis c'est pas comme aujourd'hui, il fallait remonter la bande. Ça m'a pris une journée pour faire 20 minutes de pied. Après la snare, après la charlet, après les rentrées. Puis après la basse, et ça se faisait absolument pas comme ça. Aujourd'hui, c'est un commun.
Oui, de faire du multipiste, en fait.
Tu mets un pied, puis après tu habilles. Ouais. Mais à l'époque, non.
T'as fait du séquenceur avant le séquenceur.
Et ils me prenaient pour un taré. Mais comme ils ont vu après les enchaînements de cordes et tout, ils disaient, putain, le mec, il part dans une expérience, quoi, musicale. Et au mixage, une fois que tout était fini, j'invite tout le monde à prendre un pot. Il y avait une grande room où on faisait les cordes avec un plafond très haut, tu sais, un grand piano. Je fais livrer champagne, des petits fours et tout. Et je leur mets le mix pour qu'ils voient ce que je faisais. Ah, super et tout. Et là, les nanas, les trois chanteuses, qui étaient trois chanteuses stars à l'époque, qui faisaient Donna Summer, qui faisaient tout ça, commencent à faire des mais on leur a pas demandé. Et à écouter
parce que oui, c'est dans le morceau, on entend effectivement des râles comme ça, etc.
Et elles l'ont fait comme ça pour rigoler parce qu'elles buvaient du champagne. D'ailleurs, on entend des fois les verres qui claquent. Et moi, je regarde l'ingénieur et je fais.
On enregistre.
On me shoot ça. On le shoot. Le lendemain, on écoute et on dit putain, je le garde. Chiche, pas capable. Je le garde. D'où la pochette un peu sexe.
Ouais.
Mais parce que c'est ça qui a déclenché.
Ouais.
Donc je leur ai demandé l'autorisation. Elles ont réécouté. Elles étaient mortes de rire. Elles me disent tu vas cogner dans les clubs. Il n'y avait pas de produit comme ça dans les clubs. Donc ça a été le.
Ouais, donc en plus, c'est vraiment là pour le coup.
Le hook, comme on dit en anglais.
C'est du.
Oui, il y a une part presque un peu de marketing. Ou en tout cas, tu avais.
C'est du marketing, artistique.
Ouais, mais provoquer quelque chose chez les auditeurs quand même. Mais aussi moi, dans le visuel.
C'était pas calculé, c'était pas des mathématiques.
Oui, il n'y avait pas de calcul.
C'était de l'inspiration artistique. C'était.
C'est fou ça.
Mais d'appuyer quand même sur ces éléments-là, quoi. Tu savais que ça pouvait faire réagir l'audience.
Là aussi, la réussite a fait partie du regard que tu peux avoir sur les opportunités qui passent. Parce qu'il y en a qui ne les voient pas. Et moi, j'essaie de les voir et d'être à la hauteur quand elles passent. Et cet exemple, je pourrais te donner 20 exemples dans ma vie qui ont fait que j'ai pu continuer et changer de niveau et de trajectoire quand des fois, il y avait des périodes difficiles, si tu veux.
Alors, il y a un truc, moi, qui m'intéresse énormément. C'est, on a écouté Congas, on a écouté donc, ton premier album, un extrait, Love in C Minor. Clairement, tu t'es pris le disco, tu cherches à faire du disco, et c'est relativement tôt quand même. Non, tu cherches pas à faire du disco quand t'enregistres ça?
Il écoute pas le monsieur.
Dis-moi.
Là, il y a une règle. Je te dis que la disco, ça n'existait pas.
Mais tu voulais qu'on t'écoute en club.
Non, c'était toujours encore de la pop quand t'entendais des trucs.
Peut-être qu'on n'utilisait pas le terme, mais il commençait à y avoir quand même musicalement l'esthétique
le
disco.
Le pur disco tel que. D'ailleurs, s'il en reste, on doit être 4 ou 5 seulement à rester, c'est gain de raison. D'ailleurs, 3-4 ans après, on appelait ça le disco suck, c'est-à-dire que c'était les producteurs, ils prenaient des titres, les stars de chaque pays du monde, en France, je ne vais pas citer de nom, mais ils avaient leurs titres pop, qui auraient de toute façon été des hits, mais sauf qu'ils les faisaient arranger à la sauce disco. Disco, c'est plus une... C'est pour ça que c'est apprécié aujourd'hui et que les DJ, ils ont vraiment fait la différence. C'est vraiment un esprit, comme le rock l'a été, comme le jazz l'est, c'est vraiment un style, c'est un esprit. Si tu captes pas l'esprit, ça veut dire si tu crois que c'est qu'un pied avec des cordes,
C'est quoi cet esprit alors, dis-nous?
C'est vraiment dans la lancinance, c'est un peu comme dans la séduction. Je vais essayer de prendre cet exemple dans la séduction. Quand tu veux séduire quelqu'un, tu prends des mots, tu sais pas si ça va le faire, tu cherches pour que ça le fasse, alors que quand tu t'adresses à quelqu'un, Tu vas me dire c'est la même chose, m'adresse à quelqu'un. Non, c'est des petites différences.
C'est quoi le rock?
Tu crois que c'est une voix cassée? Les guitares qui... C'est pas ça le rock, c'est un esprit. Je parle du vrai rock, hein. De tout ce qui nous règle, l'aigle qui nous reste de la rock music, c'est profond, c'est
donc c'est une intention plus que
c'est une intention, c'est ouais.
À quel moment, à ce moment-là, si pour toi le disco à ce moment-là n'existe pas réellement, tu fais ta musique et il se trouve que ça s'inscrit un peu dans cette histoire au final, à quel moment tu prends conscience d'une certaine manière de participer à une esthétique, à une scène?
tu vois, qu'on pourrait
qualifier. J'ai pas pris conscience, j'avais envie, si tu veux, le fait de casser le groupe, je regrettais pas parce que j'avais une réussite dans le business que je voulais, mais c'était pas mon truc. Mais je le réussissais parce que, une fois de plus, j'étais bien entouré, ici et ça. Mais tout ce que j'ai pu ressentir pendant 3 ans avec Congas, où on faisait 4-5 galas des fois par semaine, cette ambiance avec le public, que tu fais durer des titres, tu fais. C'est ça, si tu veux. C'est très difficile à expliquer. Hein.
Oui, t'avais déjà l'interaction avec le
j'avais
public.
J'avais envie de faire un album que t'as envie d'écouter.
Ouais. Et d'accord. Tu savais ce que les gens minutes, pouvaient attendre.
Pas comme aujourd'hui, pas copie-coller, copie-tenir. Si tu écoutes les 16 minutes,
oui, des évolutions.
T'as pas un truc qui revient. C'est constamment. Donc t'amènes les gens à t'écouter parce que, oh, il y a de la découverte. Hein, presque un peu de la musique de film, si tu veux. Et ce côté un peu batterie, bah ouais, moi j'étais batteur. Si j'avais été saxophoniste, j'aurais mis du saxo partout. J'étais batteur, ça me paraissait logique. Et je te répète que je ne partais pas dans une logique que ce disque allait même être commercialisé. Comme Supernature, j'étais pas sûr qu'on allait le sortir.
Est-ce qu'il y a un moment quand même où tu vas prendre à ton compte ce mot de disco, où tu vas dire oui, je fais du disco?
Oui, parce que après j'ai été étiqueté, comme je te répète avec d'autres producteurs, où j'étais vraiment spécialiste et producteur de musique de discothèque, et on m'a donné là-dedans quelques récompenses, comme des Grammys. Je faisais pas l'effort parce que c'est le seul truc que je sais faire, quoi. C'est mon univers musical.
Et il y avait.
Et ensuite, à part Pré-Supernature, on a dans le monde, à part la France, dans le monde, on mettait pas disco.
Ouais.
Siron, c'est un son comme t'as Santana sans aucune prétention. Santana qui a un son, tu vois, comme un artiste qui a un son. Aujourd'hui, les DJ ont fait en sorte de montrer que.
D'avoir des catégories.
Son, quelque part dans l'harmonie où je vais ou dans l'idée que ce soit afro comme avec Bococo,
Roga.
Ça reste un univers qui est le mien, quoi. Je veux dire, mais je l'ai pas travaillé.
Et t'avais quand même cette potentielle inquiétude de se dire, ça se trouve, c'est une phase et peut-être que les gens vont passer à autre chose et genre se renouveler.
Non, parce que ça veut dire que là, j'aurais voulu m'accrocher du mouvement que je sentais qui passait.
Ouais.
J'étais pire que ça. J'étais persuadé que ça allait pas sortir.
Ouais.
J'étais persuadé que ça allait pas faire de succès. Quand les vinyles ont commencé à partir dans tous les sens, que ça soit l'Italie, que l'Angleterre, qu'on demandait par les magasins, par Rapport Musique,
ouais.
Comme si on avait été un grossiste parce qu'on avait une exclue anglaise qui s'appelait la Vinci Minor. Je me disais, on va vendre les 5000, ben au moins ça va me payer le studio.
Ouais.
J'étais plutôt dans cette truc-là. Quand j'ai signé un contrat, je me suis dit, bon, ça va sortir, écoute, on va en vendre 12. Et puis ça s'est pas passé comme ça du tout.
Ouais.
Par contre, j'imagine.
La première télé, pour te donner comme ça s'est pas passé, excuse-moi.
Ouais. Vas-y.
Ma première télé, donc le disque sort, on arrive au printemps 76, 17, quelque chose comme ça. Et ils me disent, tiens, il y a un gros show le samedi qui s'appelle American Bandstand. Par un animateur que Dick Clark, un peu le Drucker de l'époque, de la grande époque Drucker.
C'était déjà Drucker à l'époque. C'est ça qui est ouf.
Tu vas venir, on va présenter l'album. Moi, je suis hyper content. Je vais rentrer chez moi la semaine prochaine, à Belle Épine. J'ai les pieds au sol, quoi.
Ouais.
Et puis, pendant l'émission, on est en backstage. Et ils me disent, il y a un artiste star, on ne sait pas qui ça va être. À la fin, on les voit quand ils montent sur scène. Et les génériques étaient faits à l'époque sur des feuilles de papier roulées bleues, avec du bleu, tu sais. J'essayais de découvrir qui c'était la star. On arrive presque à la fin, avant que cette star arrive. Et je dis au mec de ma maison 10, je dis donc, alors, ils n'ont pas présenté. Ils m'ont dit, on t'avait dit, c'était pas sûr. Hein. Bon, enfin, c'est pas grave, bon, tu t'es pas emmerdé là. Non, tout va bien. Et là, j'entends pam-pam-dump, pam-pam-dump, pam-pam-dump. Mais j'entends en live. Et je dis au mec, vous êtes fous. Ils avaient fait répéter un groupe. Et ils m'ont appelé, il y avait une batterie qui était seule devant. Ils m'ont dit, vas-y, mon pote. Et ben, je peux te dire que l'émotion qui est passée, tu le vois parce qu'on l'a retrouvé, ces images. Sur le web, tu vas sur YouTube, tu vois l'émotion qui passe. Bah, ça, c'est des opportunités qui sont passées, quoi. Et après, à toi d'être à la hauteur de...
Alors, attends, pour nos auditeurs qui n'ont pas la ref de Popolamp, 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 c'était qui l'artiste alors, au final?
Ben, c'était moi.
Ah, c'était toi l'artiste.
C'était la découverte. Ce jour-là, ils faisaient une découverte.
D'accord.
Ils en ont mis, absolument.
Mais ils t'ont pas prévu. Mais
Mais t'imagines si j'avais été un... Mais t'imagines si j'avais été un pipeau même.
Ben ouais.
Le mec il l'amène. Mais moi je joue pas de la batterie. C'était une blague.
Mais en fait, attends.
Ben ils se sont renseignés. Ils savaient bien que j'étais batteur. Ils savaient bien que j'avais congas.
Ouais, que tu savais jouer. Non. Ouais, mais enfin, tu te dis pour la télé américaine où normalement tout est quand même millimétré.
Ils ont voulu le jouer sur l'émotion, l'émotionnel, ouais. qu'a marqué le public américain. Et la semaine d'après, c'est parti. Je te répète, ces images sont visibles. Tu vas sur YouTube, tu tapes Cerón American Band Dance, tu les vois les images.
Ah, c'est ouf.
Alors, il y a donc Love in C Minor, et puis après, tu enchaînes très vite d'ailleurs, en fait, avec Cerón's Paradise.
J'ai trop envie de faire de la musique. Donc, ouais. Je rappelle Trident, il me retrouve 2 ou 3 mois de séance, je fais les allers-retours entre Paris, et voilà quoi. Je suis très, très secondé pour les magasins.
Et là, par contre, j'imagine que. Parce que tu as connu un gros succès. Alors que c'était censé être presque ton dernier album, tu voulais arrêter la musique, Love in C Minor, ça prend finalement.
C'était plus que mon dernier album c'était Congas, c'était
un passe-temps.
L'imprévu quoi.
Ouais,
c'était,
ouais.
Mais j'imagine par contre que quand t'enchaînes derrière pour Cerón's Paradise et puis pour Supernature aussi après, qui est le troisième album derrière, t'es quand même dans une optique forcément un peu différente, c'est-à-dire que là tu te dis, ok, il y a un truc qui se joue, là il y a moyen de faire carrière, j'imagine.
Je me disais deux choses, je me disais deuxième album après le tel carton... Ça va le faire quand même un peu. Mais essayons de le faire au top, quoi.
T'as pas ressenti une pression en te disant, putain, est-ce que je vais arriver à avoir un
bien sûr. Bien sûr. Et donc, je retourne à Trident, je prends les mêmes musiciens, les mêmes chanteuses, le même environnement de collaborateurs. Ouais. À Paralek, où c'est arrêté là. Et l'album, quand je l'ai livré, j'attendais avec impatience qu'ils me disent, ah, mais c'est bien, t'inquiète pas. Ouais. Ça voudrait dire que c'était moins bien.
Ouais.
C'est pas ce qui s'est passé.
C'est pas ce qui s'est passé. C'est ouf.
Ouais.
Ouais.
Ça a été un succès identique. Et là, alors par contre, là, on peut dire, j'ai peut-être voulu profiter de la vague. J'ai très vite produit le troisième, Supernature.
Ok.
J'ai d'abord livré Give Me Love. Ils ont adoré. Ils ont dit bah bingo, on y va en plein dedans. Et après, j'aurais dit mais non, mais ça c'est la phase B. La phase A, faut sortir Supernature. Et là, ça a été un peu litigieux. Ça a été. Et à l'époque.
Ouais, donc là, il y a eu une intervention de la maison de disques. Parce que, en fait, depuis tout à l'heure, on parle.
Ils s'opposaient au départ.
Ouais, d'accord.
Ils s'opposaient, ils disaient, mais attends, on n'a pas travaillé avec tes grandes orchestrations, machin, à la French Sound. Ils appelaient ça la French Sound. Les médias là-bas appelaient ça la French Sound. C'est pour ça qu'on te les Daft ont.
La French
Touch.
Chopé
la French Touch. Mmh. Ça venait un peu de la French Sound. C'est-à-dire un son français. Aujourd'hui, on appelle ça la French Touch, mais on pourrait appeler ça aussi le French Sound. Parce que les artistes français aujourd'hui, DJ ou dans plein de domaines, on a vraiment une étiquette crédible dans le monde. Et
ah oui, clairement.
C'est un French Sound. Tu vois,
parce que là, ce que tu es en train de nous dire, c'est que le son de Supernature, c'est pas exactement le son que tu avais auparavant. Alors, on retrouve ta patte, évidemment. Mais il y a quand même. Parce que je prends un exemple pour qu'on illustre un peu musicalement. C'est-à-dire qu'on revient à Cerón's Paradise, on ne sait pas écouter l'extrait. Je mets un extrait justement du morceau qui a le même nom, Cerón's Paradise. On se l'écoute comme ça pour avoir une idée. Donc clairement, on est dans la continuité de Love in C Minor, on est aussi dans les codes de ce qu'on qualifiera de disco derrière, de Congas aussi, mais du disco classique. Et c'est vrai que sur ce qui enchaîne derrière, et là on peut écouter Supernature, on va voir tout de suite que... Voilà.
Ah bah oui.
Le même type de son.
Ah bah là, la maison de disque, elle a dit
bah oui.
C'est là où tu dis, eux, ils étaient pas chauds sur son, quoi.
Ils étaient pas chauds du tout, mais j'ai fait un peu de pression. Ils savaient exactement ce que j'avais en France. Je leur ai dit, bon, écoutez, pas de problème, et moi, je le sors en vinyle. Et alors, évidemment, les maisons de disques, après, se sont blindées dans tous les domaines où les artistes ne peuvent plus rien faire.
Ouais.
Mais à l'époque, ils m'ont dit, mais t'as pas le droit de faire ça. J'ai dit, mais non, je ne sors pas dans une autre maison de disques, je le sors en vinyle, c'est mes magasins qui les sortent, donc on va les sortir. Ça ne s'est pas produit puisqu'ils ont cédé.
Ouais. Mais toi, t'étais prêt à le presser toi-même en indé.
J'étais tellement persuadé que ce qui m'arrivait, c'était un coup de peau, c'était... ça allait pas durer et que j'allais retourner à monter ma chaîne de magasins, l'autre qui m'excitait comme un fou, il me dit on va en monter 50, c'était tout cuit, ça me déplaisait pas, je vais pas jouer, oh j'étais obligé de faire ça, non ça me plaisait.
En fait
j'ai eu le savoir-faire si tu veux, et bien entouré pour tout ce qui est le côté plus blé, organisation, société, machin, si y a ça.
Donc, en fait le fait que t'avais déjà un plan B qui était en fait ton plan A, c'est-à-dire gérer des magasins de disques, ça fait que tu as pu faire ta musique sans aucune pression, te dire attention, si la maison de disques ne me suit pas, potentiellement je suis dans la merde, même financièrement, etc. Donc ça, c'est quand même un confort.
Ouais, c'est clair, tu pouvais t'en affranchir d'une certaine manière.
Donc ça n'avait pas le poids et l'emprise.
Ouais,
ça avait,
carrément.
Tant mieux, quoi.
Après, et j'imagine ensuite, que quand tu as une maison de disque, une grosse maison de disque qui te suit, ça démultiplie quand même les moyens pour qu'elle circule ta musique. C'est quand même
le fondateur d'Atlantic, c'est un mec qui s'appelait Ahmet Ertegun. Il m'a managé pendant 7 ans. C'est grâce à lui que j'ai fait toute cette traversée. Il m'a mis sur la pile du haut. Et à partir du moment où tu es sur la pile du haut, tu n'as même pas besoin de dire à tout le monde attention. Tout le monde fait attention.
Ouais.
Et Super Nature, donc ils n'ont pas trop lutté. Ça a duré peut-être 2 semaines, ils l'ont fait écouter en radio là-bas, ils l'ont fait écouter à tout le monde. Tout le monde a fait « Wouah !»
Ça, oui, parce
va,
que
ça
là,
va
c'est...
le faire, ça va le faire. Ouais. Là, ils ont commencé à me dire « Alors, ok, on le fait, mais on voudrait remixer pour que c'est un son plus ricain. »
Ok.
Il y a dû avoir 5-6 remix.
C'est quoi un son plus ricain?
Thomas Moulton, des mecs qui avaient des noms.
Mais c'est quoi un son plus ricain? Qu'est-ce qui...
Bah, je disais « Allez-y !» Donc moi, j'envoyais les bandes et puis après, ils faisaient des mix. Aucun n'a fait mieux que la version originale qui est sortie. Sinon, je l'aurais accepté, pourquoi pas. C'est ça aussi le talent de savoir s'entourer, c'est savoir écouter.
Ouais.
C'est vrai que c'est marrant parce que on fait souvent le parallèle comme avec Moroder qui a aussi eu ce son électronique. Et pareil, en fait, c'est un Italien, c'est un Européen, c'est
européen,
pas un
ouais.
Américain.
Ouais.
Tu penses c'est quoi, c'est le côté.
C'est un Italo-Allemand.
Ouais. Tu penses que c'est le côté arpégié, c'est le son en lui-même, le timbre du synthétiseur, tu vois, comment il est sound designé, le son, qu'est-ce qui fait que...
Je rentre pas dans là, je m'occupe pas de ça. Si je m'occupe pas de
pas
savoir
d'analyse.
Si quelqu'un est gentil avec moi, pourquoi il est gentil avec moi ?
Ouais.
Je prends. Pourquoi j'ai mon son? Si tu te rends compte, si les artistes ont se posé la question, je te répète, ce serait comme certains le disent, c'est la musique, c'est de la mathématique.
Ouais.
Non, non.
Non, mais par contre, parfois, il y a des inspirations.
C'est que de l'inspiration.
Ouais, on sort. Et à ce moment-là,
c'est du ressenti.
Qu'est-ce que tu écoutais qui t'a inspiré pour Supernature, par exemple, à ce moment-là?
Moi, c'est la nouveauté. Je te répète, on était dans une culture, il fallait tout faire pour éviter de ressembler à l'autre.
Mmh.
J'ai tout fait avec la Vinci Minor pour éviter de ressembler à l'autre. Conga, ça ressemblait pas, ça ressemblait de loin à un Santana, un Barabbas, de loin.
Ouais, si, à le côté Santana, ouais.
D'accord. La Vinci Minor, ça ressemblait à rien. Mais c'était voulu. La batterie, le pied si en avant, les sons si épurés, alors que c'est rempli, mais ça sonne
ouais, minimaliste.
Minimaliste,
ouais.
Alors que c'est tout sauf minimaliste. parce que j'étais le son que je pourrais même pas dire c'est le son en tant que vendeur de disques entre guillemets tel ou tel disque m'aurait inspiré. Non, il y avait pas sur le marché cette musique. Neil Bogart, le président qui avait monté Casablanca Records, il m'avait raconté à Palm Springs un jour dans un jacuzzi. Il m'a dit, tu sais que c'est grâce à la Vinci Minor où j'ai dit à Moroder, Love to Love You Baby, il faisait 4 minutes. Je lui ai dit, tu me fais comme tu veux, tu repasses en studio, tu me fais une longue version. Et il lui a donné le Love in C Minor. Alors que le Love to Love You Baby, au départ, est sorti en single.
Ouais.
Pourquoi j'ai fait 16 minutes? Pour moi, c'était vraiment aussi novice d'imaginer deux nanas, deux mecs ou un couple qui dansent, qui se regardent. Ils n'ont pas besoin de se dire ce qui se passe.
Ouais.
Et ce qu'ils entendent va leur donner des sourires. Donc va créer déjà un...
Ouais, c'est la culture du club, de la discothèque.
Absolument. Et le côté merci des DJ, c'est que tous les samples, tous les remixes, tout ce qu'ils ont pu faire, c'est ce son. C'est ça qu'ils ont été chercher. Donc voilà ma réponse. Je vous ai tout dit.
Voilà, merci. Alors, pour toi.
Je pense que la plupart des gens ils connaissent à fond évidemment Supernature, mais je mets juste un
obligé,
extrait quand même.
Moi, franchement, bon, je comprends les mecs de maison de disques qui se disent
merde.
Tu
veux notre anecdote?
Ouais,
on est à la maison. Hein.
Vas-y.
La voix, là aussi, j'étais servi. La voix, Kay Garner. Kay Garner, c'est elle qui m'a fait toutes les voix très sensuelles sur Give Me Love, sur Paradise, sur La Vie de Simone. Elle m'en a fait vraiment très sensuelle. Et quand j'ai fait Supernature, jusqu'à là, c'était surprenant. Toute l'équipe où on était, on sentait que bah, c'est quelque chose, quoi. On enregistre d'abord les chorus. Supernature, Supernature. Dont les backups, c'était les mêmes que Paradise. Les mêmes voix. on met ça. Et puis à un moment donné, je dis à Kay Garner, tu veux pas me poser la voix lead, la mélodie qui va être la principale, et comme ça me permet d'envoyer à qui j'ai envie d'aller chercher. J'avais déjà un nom un peu installé, je pensais tout de suite d'aller chercher des gros noms, tu vois, comme on fait aujourd'hui un gros feat.
Ouais.
Et elle me dit, ouais, qu'est-ce que tu veux avec cet univers, c'est bizarre. Alors je dis, écoute, si tu arrives, j'aimerais bien que tu fasses ni un homme, ni une femme, androgyne.
D'accord.
Un truc bizarre, mais qui raconte. Fais en sorte que les gens t'écoutent. Ils n'écoutent pas une chanson, t'écoutent le texte que tu dis. Putain, comment elle m'a chanté ça. Après, je dis, je garde, elle me dit, mais t'es fou, ça mérite mieux. T'es si... Écoute, quand, jusqu'au JO, là. Le nombre, de chanteurs, chanteuses. J'ai fait Bette Ditto, j'en ai fait plein. Personne n'a été à la hauteur de l'original. Une qui m'a surpris quand même, elle m'a scotché, c'est Christine on the Queen. Qui l'a fait, elle m'a quand même scotché.
Vous avez fait la clôture ensemble.
Elle a un talent,
ouais.
Peu reconnu d'ailleurs, au-delà de ce que je l'ai eu en studio, on a préparé des trucs ensemble. Putain de talent. Et ben quoi qu'il en soit, Kay Garner, voilà, Supernature a été truffé de trucs comme ça qui sont inexplicables.
Alors Love in C Minor 76 si je dis pas de bêtises.
Ouais.
Et derrière les deux autres albums c'est 77. Donc là t'enchaînes vraiment. Là t'es sur un rythme
industriel.
Ouais, tellement que Trident, évidemment. Alors là je suis le mec fréquentable, c'est pour ça que on me livre un ARP, un lycée. Avec quoi je fais Supernature. En partie, il y a eu d'autres synthés, ouais. Et là, le Trident me dit, écoute, si tu veux d'autres dates, si tu veux d'autres mois, on peut s'arranger. Trident, le directeur de Trident, et on fait en sorte d'avoir Elton 4 mois, Gabriel 4 mois et moi 4 mois. Et puis des fois, j'avais des mois, un mois de libre. Je voulais pas les rendre. Donc, comme je suis un vrai bosseur, les gens qui me connaissent bien, si vous en parlez, ils vous diront le mec.
On voit que t'as de l'énergie dans tous les cas.
Je suis un gros, mais j'adore ça, c'est pas un boulot, j'adore ça. C'est comme ça que j'ai sorti des albums Congas, Africanisme, que j'ai sorti des albums Révélation, dont t'as un gros sample avec Jamix.
Oui,
c'est comme ça que j'ai fait Don Ray, un album, je dis à ce moment.
Alors
vraiment...
arrêtons-nous sur Africanisme, parce que tu sais que le morceau. Parce que normalement, Conga s'était arrêté, mais ça repart en 78, il faut que tu m'expliques d'où ça sort.
Oui, mais c'était mon groupe, donc je me suis permis de me dire, tiens, je vais faire un album pour Congas. C'était pas.
Le mec, il devait être content.
Mais ils l'ont bien pris. Mais ils l'ont bien pris, la preuve, c'est devenu mes musiciens. C'était pas d'en dire. C'était un honneur quoi que je faisais pour Conga, c'est
au contraire. Tu sais que le morceau qui ouvre Africanisme, Gimme Some Lovin', je crois que c'est un de mes trucs préférés de toi.
Ça a été un carton.
J'adore ce morceau.
Ça a été un carton.
15 minutes.
Et c'était la première fois qu'on faisait du match-up. Parce qu'en fin de compte, il y a un bout de mélodie qui vient de Stevie Winwood, Gimme Some Lovin'.
Ouais.
Dou, 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 dou. C'est de là qu'il y a une partie de la mélodie. Sponsor Davis Group, ça s'appelait. Et ben, j'ai contacté Steve Winwood en lui disant, je fais ci et ça. Il me dit, oh, c'est ouf le truc, qu'est-ce que t'as fait et tout. C'était le démarrage, je crois. Je me demande si c'est pas le premier.
Premier sample.
Exagérons rien.
C'était un match-up.
Le premier match-up.
C'est côté mégalo, mais premier
match-up.
Premier match-up, ouais.
Non, premier sample, quand tu vas sur l'appli. Je te dis, tu tapes Seron Sample, je crois que l'un des premiers, peut-être pas le premier, mais l'un des premiers, des 10 premiers samples musicaux qui se sont faits, c'est avec Randy MC et Rocket in the Pocket.
On s'écoute un extrait de Organism, Gimme Some
Lovin'. Allez, let's go.
Allez, trop bien ce morceau.
Avec des grandes intros,
oui,
comme font les DJ aujourd'hui d'ailleurs, tu développes, tu vois,
tu prends le temps,
pas trop de voix, pas pop,
ouais.
Surtout pas pop.
Voilà le morceau 15 minutes, effectivement, on n'est pas dans un format pop.
Ah oui, là, le radio edit est.
Je vais avancer si besoin pour qu'on voit à quoi ça ressemble. C'est imparable, on n'a qu'une envie, c'est de danser.
Ça l'a bien fait depuis longtemps, ça le fait toujours d'ailleurs.
Bah ouais.
Je le joue toujours sur scène, c'est toujours.
Ouais. Et ça, pareil, ouais. quand t'arrives avec ce projet-là, la maison de disques, elle dit bon, bah ok, go.
Non.
Ça se passe jamais comme ça.
Je te répète, je me suis séparé des magasins, je me suis libéré, je suis parti en tournée dans le monde, ouais. Et ça ne s'arrête pas encore aujourd'hui, quoi, c'est parti.
D'accord, ok.
Et j'ai eu Ahmed Artegoun qui m'a mis sur les bons plans, le bon entourage. J'étais un chouchouté pendant jusqu'à les années vers 82-84.
Ok.
Passons justement à cette deuxième partie. Là, clairement, on a compris d'où tu viens, comment ça prend dans la musique pour toi. Ensuite, bah, il faut gérer ses tubes, il faut développer une carrière. Elle va être longue derrière.
Elle n'est pas finie.
Comment, déjà, c'est peut-être un peu bateau comme question, tu me dis, mais Super Nature en particulier, franchement, un tube comme ça, c'est plutôt une bénédiction ou une malédiction pour toi? Est-ce que c'est franchement que du positif, ou est-ce qu'il y a le côté aussi un peu arrêtons de parler de ce morceau?
Non, c'est plutôt vécu en disant putain, j'ai encore monté la barre plus haute, ouais. Il va falloir que je tienne. Mmh. Et je vais pas tenir, je vais pas y arriver. Donc je m'en occupe pas, je fais très attention, je fais la musique qui me plaît. Et je fais pas de concessions. Là, il y a eu, après ça, il y a eu le fameux Disco Suck. La pop arrivait à grand V, le synthé arrivait un peu partout.
Le disco est passé de mode, on voulait plus en écouter.
Voilà. Et moi, là, je fais un album, le quatrième album, qui était un premier album enregistré en 48 pistes, synchrone. C'était déjà avec une grosse formation, c'est pratiquement un symphonique, un peu plus rock.
Ouais, parce qu'il y a Jimmy Page même dessus.
Il y a Jimmy Page qui, ouais, absolument. Il y a, j'adorais un groupe qui s'appelait Chicago à l'époque.
Bien sûr.
J'adorais les cuivres. Et leur manière d'harmoniser les cuivres, et c'est surtout un mec qui s'appelle Jerry Hay, c'est lui qui a écrit tous les cuivres de Jackson, de Phil Collins, de Cool and the Gang, ils ont passé des meilleurs. Et on est devenu copain, il m'a fait pendant 5 albums, il m'a fait les arrangements de cuivre, et j'ai eu la chance aussi, voilà. Après le 4, qui a été très gros aussi, j'étais à Los Angeles un soir dans une boîte sur Sunset Boulevard qui s'appelle Roxy. J'étais avec Wisniak d'ailleurs, un mec qui a travaillé beaucoup avec moi. Et on va voir Police.
Ouais, ok.
Et là, on est à côté d'un groupe qui s'appelait Toto.
D'accord.
On devient super potes. Mon album derrière, je l'ai fait avec tout l'album, je l'ai fait avec Toto.
Ok.
Par Angelina
entre autres, ouais. Et ça a été constamment comme ça. Et je trouve que... Je suis très content. Si je devais refaire la chose, je la ferais pareil. Parce que je l'ai bien vécu.
Il y avait ce besoin.
J'ai pas eu les angoisses de. Ouais. Si tu veux, j'ai pas minimisé le succès, mais j'ai pas grossi la peur de perdre. Voilà.
Justement, tu voulais au contraire prendre une forme de contre-pied par rapport à.
C'est la scène qui m'a permis ça. Mmh. La scène.
Pourquoi la scène?
Bah, parce que sur la scène, c'est la vérité, quoi.
Ouais, t'es plus. Ouais. Là, t'as le public qui réagit en direct. Ouais.
T'es revenu à ta base de est-ce que ça fait danser les gens?
J'ai jamais quitté parce que dès Love and C Minor Paradise, Ahmed Artegoun, il m'a remis sur les rails. Allez, je suis parti en tournée. Puis quand tu pars en tournée aux États-Unis, t'en as pour 8 mois, tu vois. Ouais. Et je venais en France par période. Et la scène m'a. Ouais, la scène m'a. Tous les artistes diront ça. Tous les artistes qui ont fait beaucoup de scènes. parlais de Jackson tout à l'heure, bah, c'est la scène qui et d'ailleurs les artistes qui font beaucoup de scènes quelque part dans leur album, on le ressent. Enfin moi je le ressens.
Plus de liberté de.
On avait parlé de ça avec comment ça s'appelait Véronique Sanson. Mmh. On avait parlé de ça un jour. Ça sent quand quelque part la création, la composition, elle s'adresse. Je sais pas comment te dire.
Oui, c'est pas un musique de studio.
Moi vraiment, je tout ce que je compose, tout ce que je produis, et encore plus aujourd'hui. Ayant découvert les platines il y a 12 ans, tu vois, je me suis revisité, mais c'est un truc incroyable.
Faudra qu'on en parle, effectivement.
C'est devenu DJ. C'est le cadeau, je te disais tout à l'heure, à l'extérieur de l'antenne. Mon père m'a déjà toujours inculqué quelque chose dans la vie, j'essayais de vous le faire comprendre. C'est d'être, il me dit toujours, fais en sorte d'être toujours sur le quai de la gare. C'est des mots. Mmh. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que si le train il passe, il est pour toi. Et sache qu'on va pas te téléphoner, on va pas te prévenir. C'est l'improvise. Ouais,
c'est-à-dire, c'est faut saisir les opportunités.
L'opportunité. Et comme l'album avec Toto, moi, ça a été constamment des opportunités. Et puis après, travailler pour être à la hauteur. Mais je travaille pas. Quand le matin, j'ai toujours eu un ingénieur du son quand j'ai vécu. J'ai passé 22 ans aux États-Unis. J'avais toujours un ingénieur à demeure comme aujourd'hui. Des matins, j'ai envie de bosser. Des matins, bah, t'as toujours de quoi t'occuper. Quand t'as un catalogue comme j'ai, en plus, on fait beaucoup de choses. Donc, il a toujours du boulot. Et puis, des fois, il peut être 15 heures. J'ai dit, tiens, j'ai envie de faire un truc. J'ai une idée. Sors-moi le son. Tati, tati, tata. Comme c'est mon mec depuis lui, ça fait 22 ans que je l'ai. Ouais. Et c'est exactement, ça va très vite pour trouver là où ça.
Ouais, ce que je précise, ça, c'est un truc que j'ai entendu dire, c'est qu'à la maison, donc, t'as un home studio à Paris. Et en fait, t'as tous les stems de toute ta musique, quasiment depuis le début. Tout est à disposition. À tout moment, tu peux retravailler avec tes multipistes, avec chaque partie.
Dans les années 80, quand commençaient à arriver les Macintosh, tu sais, les ordi et tout. Et je demandais toujours, quand on avait du temps libre, parce que j'ai toujours eu, te dis, à l'ingénieur à demeure, tiens, loue-moi ces machines, reporte-moi piste par piste.
Ouais. Donc t'as fait tes propres...
Combien de fois on m'a dit, mais attends Marc, calme-toi quand même. Tu vas où là? Mais aujourd'hui, quel bonheur!
Ouais.
J'ai une caverne d'Alibaba. Ouais,
C'était quoi l'idée derrière ça, de refaire ta propre banque de sons, en fait, de tout archiver?
Tu sais quoi, il y a un truc qui est marquant dans la.
Quai de la gare.
Ok.
Être prêt.
Être prêt, ouais.
Et j'ai eu raison, d'un seul coup, il est arrivé les CD.
Ouais.
Tous les artistes gueulaient, ouais, mais le son, on a dit, comme quand t'es arrivé Internet, et tout le monde gueule, et ils veulent tout le changement, mais ils voient pas l'arrivée, le changement, oser. Bref, quand sont arrivés les CD, je me suis régalé.
Ouais.
Parce que j'étais le premier en France à les sortir, parce que je suis un indépendant, ça me permet ça.
Ouais.
On va pas avoir la lourdeur et l'organisation d'une major. Bref, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé.
Non, t'inquiète pas, non, c'est moi qui te coupais. Mais parce que tu parlais de... Tu vois, Daz, tu lui demandais pourquoi il avait eu cette idée, cette inspiration. Ouais. Parce que je trouve qu'il y a quand même eu, quasiment dès le début chez toi, l'idée de la réinterprétation aussi. C'est-à-dire que je pense, par exemple, au morceau Sweet Drums qui est sur l'album sur Congas.
Tu mets le doigt exactement.
Et qu'on retrouve sur Supernature.
Tu mets le doigt exactement.
En fait, t'as toujours pensé comme ça.
Exactement. Et je te répète, qu'est-ce qui a fait ça? Qu'est-ce qui m'a motivé à faire ça? C'est quand, par exemple, je sortais un album. Les enregistrements, ils étaient faits, c'était comme ça. Tu les fais sur scène. Tu fais 3-4 titres de chaque album à chaque fois sur scène. Mais les interprétations changent. Et des fois, on partait dans des délires. À l'époque, c'était en live. On partait dans des délires que la version était tellement mieux que l'album.
Ouais.
Donc, on faisait pas de remix à l'époque. Mais donc, je faisais en sorte de m'enregistrer les nouvelles versions, on aurait pu dire la version du Palais des Sports,
ouais.
Et ce qui était différente. Puis après, tu rentres dans un engrenage, et puis, puis d'un seul coup, t'as des gîtes de talents, producteurs, qui disent, mais on va faire comme t'as fait, mais on a une idée, tu peux nous les laisser le faire, pourquoi pas?
C'est-à-dire que la musique soit pas figée, en fait, c'est ça que tu dis?
C'est parti assez rapidement, à une quantité dingue, et quand mon son, puisque c'est mon son, ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'on me sample, quand ça t'associe à pas mal de succès pendant des décades,
ouais.
Bah ça évite de vieillir, ton son vieillit pas. je pense aussi tout le temps à passer pour un fou. Et à mes débuts, le temps que je passais à chiader le son, j'employais des gens qui étaient des pointus. Je me souviens un jour, un mec qui venait d'IBM, il s'appelle Jonathan Jazalik. Il a fait Art of Noise après.
Ouais, c'était okay.
J'ai eu le pif, je crois que je l'ai encore un peu, de savoir pêcher
les bonnes personnes.
Alors on fait pas les choses seules. Puis c'est pas bien.
Tu parles beaucoup d'entourage. On comprend que ça a été important dans ta carrière.
T'en es toujours.
J'imagine. Le côté justement très technique de la musique, production, etc. Dans quelle mesure, comment tu collabores en règle générale, s'il doit y avoir un peu une norme? Est-ce que toi-même tu bidouilles quand même beaucoup dans les machines? Est-ce que
ça me fait chier comme t'as pas idée?
Ah ouais.
Okay. C'est pour ça que j'ai un ingénieur qui le fait à ma place.
Okay. D'accord. Voilà.
Sauf qu'en DJ, je fais en sorte, si tu veux, je travaille avec une Ableton. Tu sais ce que c'est?
Bien sûr, avec le logiciel.
Donc j'ai un programme, par exemple, de 10 petards où à l'intérieur j'ai 3 bases de titres que je peux changer en sortie ou quoi que ce soit. Si je laisse jouer du début à la fin, ces boucles doivent faire quoi, 6-7 minutes. J'ai des couleurs qui me donnent les harmonies et j'ai un tas de petards sur ta gauche. Où par les couleurs, tu reconnais les harmonies, puis t'envoies des samples. T'arrives à faire des versions qui sont différentes, mélanger les choses.
Et quand tu composes,
t'en sors, t'en reviens en fonction du public, ce qui fait que je suis vachement pris quand je suis en DJ. Tous les DJ qui ont pu me croiser, parce qu'on se croise beaucoup dans les festivals, combien m'ont dit enfoiré, en fait, le pied que tu te prends. Non, je fais pas un filtre et tuck ou un Non, je mixe pas, je fais du dub mix si tu veux.
Tu
vois ce que c'est qu'un dub mix?
Ouais.
Je peux couper les voix pour les mettre. D'un seul coup, il n'y a plus de basse. Ou c'est la basse d'un autre titre. C'est la même harmo. La machine te cale. Quelquefois, je mixe et je suis en train de me fendre la gueule parce que c'est fou, quoi.
Mais ça, c'est pour les DJ sets, pour la composition à la maison, par exemple. Si ensuite, tu vas avoir quelqu'un, un ingénieur du son, etc. Mais toi, pour établir, de mettre les bases, sur quoi tu vas composer? Est-ce que tu vas utiliser des machines hardware?
On a tout ce qu'il faut. J'ai intérêt à être à la pointe et quand on n'est pas à la pointe, même moi, je dis à mon ingé, écoute, on a 3 jours, là, je vais pas bosser, je suis en tournée. Tu vois, un tel.
Ça part du clavier, en général, quand tu composes?
Obligatoire. D'abord, je mets une drums.
Ouais. Tu les joues encore aujourd'hui, les drums?
Toujours. Et puis j'adore ça, quoi. Je fais plus de la technique comme j'ai pu le faire à l'époque de Congas avec des solos, de ouf, machin, etc. J'ai plus l'énergie, plus l'envie de le faire. Mais tout ce qui est la base rythmique, l'assise, je le fais. Et j'ai plein de gros musiciens dans le monde qui me disent, tu me fais la drums parce que j'ai une manière... qui m'a dit ça? C'est Manu Katché, je crois, qui m'a dit en fin de compte, je sais dans ton groove où il est. J'ai tendance à jouer de la charlée un peu comme un mec qui joue de la perque. C'est-à-dire qu'elle est, elle est pas statique, elle est et ça te donne des élans de mouvement, quoi. Donc je fais mes drums.
Ensuite, clavier, tu disais.
Clavier.
Tu utilises quoi comme clavier
pour choisir mes harmonies là où je vais?
C'est quoi ta base un peu quand tu commences à composer? Tu utilises quoi comme clavier en général? Un synthé précis,
absolument. Puis après, en fonction du son que je veux, je vais chercher dans la banque.
Ah ouais, donc en mode plugin plutôt.
Bien sûr. Avec l'UAD, tu vois, j'ai l'UAD.
Okay.
T'as tout ce qu'il faut. Et après, je pense souvent un gimmick de basse très très vite. Okay. C'est ma base.
Et là, t'as quelqu'un pour la jouer ou tu la joues au clavier?
Non, je la joue.
Ok.
Alors des fois je la joue, mais je sens que je pars sur un truc qui est beaucoup plus il faut du live. Je leur fais jouer. Et un clavier pareil, je les fais jouer. Alors maintenant, avec la technique, t'as plus besoin, tu te le fais. Si je veux des cordes, j'ai quand même une banque de cordes. Je sais pas qui peut en avoir une autant. Donc je vais chercher des trucs.
Des trucs que tu avais enregistrés, qui avaient été enregistrés pour toi ou tu passes
sur les albums? Évidemment, j'ai pas besoin d'aller piquer chez les autres. C'est plutôt l'inverse qui s'est passé. Mais je vais chercher des cordes de le Vinci Minor, par exemple. J'ai des tenues. Je vais rarement dans le Vinci Minor parce que c'est un son très spécifique. Mais dans plein d'enregistrements, Si dans un til, j'ai envie d'avoir des papapapalap de cuivre, je sais que Jerry les fait très bien, donc je vais aller chercher dans mon catalogue. C'est pas les bonnes tonas, ok. Alors moi, les pichets, tu perds tout, donc je vais les jouer au synthé. Puis après, je les fais jouer.
Ouais, t'as vraiment tes banques de sons perso, ouais, quoi.
En fait, ils s'auto-référencent, c'est quand même stylé, quoi. Ah, c'est une bonne méthode. Au moins, t'auras pas de problème de droit déjà, donc ça, c'est cool.
Mais par contre, est-ce que ça peut pas, question, hein, avoir tendance à figer parfois aussi le son, de souvent se citer ?
Ça, je pense que je fais confiance aux gens qui m'entourent et puis le public. Le jour où c'est figé, ça veut dire que je commence à me répéter, que les gens ont plus envie de découvrir, que comme me disait un jour une collab que j'ai fait avec un mec génial, qui s'appelle Lelo.
Ouais, bien sûr.
J'ai fait un track avec qui on a fait une collab.
C'est ouf.
Il me disait, mais moi, c'est rock, je m'en branle, machin et tout. Et je me dis, il va me taper, c'est pas possible. Alors que nos maisons de disques et nos gens qui nous entourent trouvaient qu'on avait. Ça aurait été bien de se rencontrer. Donc, tous les deux, on a dit oui. Il est venu à 2h à mon studio, à 14h. On a pris un café, on a discuté. On a discuté une heure avant d'écouter de la musique. Et puis je me disais, pourquoi il est venu, quoi? Dans une demi-heure, j'ai fini.
Il était sympa, quand même.
Et puis, je commence à lui jouer des trucs, il arrête tout, il me fait, tu vois, pour moi, de quoi ça me fait parler, Céron? Tu m'envoies dans les étoiles, putain, je pars en voyage, là. Putain, t'as une cabine? Je lui fais, tu veux me prendre en mot, là? Bref, en version courte, mec, talent fou. Il a posé dans la journée. Mais à 19h, il est parti, le titre était fait, il s'appelle Expérience. Je suis très fier de cette collab.
Tu veux qu'on s'écoute un extrait à l'Expérience?
Ah, avec plaisir.
Vas-y, alors, attends.
Ben là, tu vois, c'est pas du calcul, c'est de l'émotion, c'est du... Ça jaillit, quoi.
Ou avec la maison de disque, quand même, qui suggère le feat à la base, si j'ai bien compris.
Non, qui pas du tout, une rencontre.
Ouais.
Pour voir si artistiquement, on peut pas faire un truc ensemble. Ouais. On est tellement à l'opposé... Et écoute la rencontre.
Allez.
Je stresse pas, je flex. Je pense comme toi, toi t'espères. Je le fais pas pour que ça te plaise. Trouve-moi loin dans l'espace. Baisse. Tourne en boucle dans ma tête. Je le dis pas pour que ça te plaise. Trouve-moi loin dans l'aise. Yeah, j'ai une seule dans le caisse. J'mets du liquide sur la bleuta. J'ai un plan A et un plan bêta. J'enlève mes bijoux si faut se péta. Yeah, j'aime les combats, j'aime le contact. Oui, j'sais pas si on est compatible. Mais ici y'a que des losa. On est plus Tony M que Sosa.
Ah, c'est aussi savoir collaborer avec des artistes actuels qui font que t'es garanti de durée.
Ouais, en fait. Bien sûr. Ouais. Et là, 2025, ça ne sera pas en perte. Oui,
j'ai ouais, t'as des trucs dans les cartons là qui arrivent.
Oh, c'est pour certains, c'est fait déjà même.
Ouais. Avec, parce que là, donc Lelo, c'est un artiste rap.
Ouais.
Tu t'explores comme ça, différents styles musicaux ou. Tu t'as pas peur en fait d'explorer des trucs pour lesquels
ça me parle dans le corps quand même, tu vois.
Ouais,
c'est,
ok.
Je crois que la seule fois où j'ai fait, parce qu'il y a encore un mec, parce que je l'adore, parce que c'est un très bon pote, j'ai fait l'année dernière, mais c'est vraiment occasionnel, c'est pas péjoratif que je veux dire, hein, pour les autres, avec Marc Lavoine par exemple.
Ouais, ok.
On habite pas loin l'un de l'autre, on s'est rencontrés. Il m'a dit qu'il finissait ses tournées avec Give Me Love.
Ouais.
Et un jour, quand on s'est rencontrés, enfin, il a voulu me rencontrer, il me dit, écoute, je suis presque à la fin de la tournée, on va faire le palais des congrès. Mm-hmm. Tu viendras pas donner un coup de batterie? Je dis, bah, évidemment. Donc, on l'a fait, et le public était sidéré, donc ils sont tous descendus, ça a changé l'ambiance, si tu veux, alors qu'il a beaucoup de succès, hein.
Ouais.
Et puis du coup, bah, ça crée des amitiés. Donc, on vient me voir au studio, machin, tout. Bon, bref, on a pondu un truc en se marrant, comme avec Lélo.
Ouais. Parce qu'à la base, toi, Marc Lavoine, c'est donc plus variété française, c'est pas forcément.
Tout à fait.
Ouais.
Ouais, mais toujours avec des prods chiadés quand même.
Ouais, ok. Ok.
De toute façon, un peu de, on sent que le mec il cherche à faire bien, quoi. Ouais. C'est pas facile.
Ouais, ok.
De toute façon, c'est ce que.
Mais la jeune génération fait ça. Hein. Je trouve que dans les prods, là, en plus en ce moment, là, je ne pourrais pas vous donner les noms, mais dans deux, trois chanteuses françaises, mm-hmm. en chanteur, j'ai pas encore découvert un truc qui m'a vraiment scotché. C'est bien. Derrière les prods, ça le fait quoi. Je veux dire, ça commence à, ça s'internationalise vraiment quoi. Je veux dire,
justement, alors c'était la question. C'était la question que je voulais.
30 ans de différence dans la musique que j'entendais dans le monde et aux États-Unis surtout, parce que j'y vivais. Et quand je venais en France, j'écoutais des trucs. C'était, on me disait, oh putain, c'est numéro 1, ça cartonne. J'ai putain, c'est pauvre putain. Même les sons.
C'est la question que je voulais poser tout à l'heure quand tu évoquais justement le fait qu'à un moment donné, donc tu pars en tournée 8 mois aux États-Unis, etc.
On me demande de venir, donc j'avais déjà un fils. Donc j'amène femme et enfant, on s'installe. Il me loue une maison, il me dit tu t'occupes de rien, où tu veux habiter. Je dis pas à New York, je préférais Los Angeles, ça change rien.
Ouais.
Ils m'ont loué une baraque, donc ils ont dû payer par mes royalties. Je m'occupais de rien parce que je pensais pas vraiment, tu penses pas au blé quand t'as une chance comme ça, que t'es un batteur pour te mettre en leader, c'est pas facile. Mmh. Que t'as pas oublié tes origines italiennes, t'es né à Vitry-sur-Seine, t'as monté des magasins de disques à Philippines. Enfin, je veux dire, si tu oublies ça, t'es le roi des cons, quoi. Je veux dire, c'est plutôt une richesse, quoi, par rapport à.
Mais alors, justement, quand tu fais ta tournée, t'es aux États-Unis, tu vois que, donc, clairement, ça marche, tu vois. La réception en France, c'est quoi
Je vois pas que ça marche. J'ai vu que ça marche après les Grammys, après Supernature. C'était passé 3 ans déjà.
Ouais.
Non, là, je me dis, j'ai un coup de peau, quoi.
Ok. Mais je veux dire, t'as le même traitement quand
right
tu reviens
time,
en France.
Right place, être là au bon moment. Quelle la gare.
Tu montres un tatouage.
c'est voilà. Et puis bon, puis cette télé dont je t'ai parlé, que Bena, tu dis ça aujourd'hui, ouais, ta première télé, oui, on sent que. Mais de la manière, le contexte dans lequel ça s'est passé, cette grosse émission de télé samedi soir en prime, ça m'a.
Mais du coup, voilà. Donc ça veut dire que concrètement, t'es identifié. Aux États-Unis en tout cas, ou sur la scène internationale, est-ce que tu as le même rapport quand tu rentres en France? Est-ce que.
Pas du tout.
Voilà. Donc il y a vraiment à ce moment-là un distinguo. Est-ce que le public français,
des
même.
Fois,
il...
Après des grosses récompenses, des gros prix que tu reçois, tu vois, des fois, moi, je venais en France pour faire un peu de promo, donc je devais venir 3 jours, je prenais une semaine, quoi. Mmh. Des fois, j'avais des réflexions, je disais, mais alors, Céron, tu fais plus de musique et tout. Et puis il y a que la France où j'ai ressenti ce fameux disco soc. N'a pas été mondial, a été certainement d'autres pays que la France, mais en France c'était vraiment perçu comme has-been, quoi.
Ouais.
Et puis la vague pop très électropop qu'on peut dire des années 80, elle a totalement balayé. C'est-à-dire elle est venue à l'envers. Nous on avait chassé les hits radio.
Ouais.
Et eux, ils revenaient qu'avec des hits radio, à tel point qu'il y avait des hits radio. Il y avait une nana qui vendait la sauce en télé et en images. C'était une choriste, en fin de compte, qui avait fait les voix derrière. S'en foutait, c'était la chasse au tube.
Ouais, donc là, ouais, on est dans le.
Alors, il y a quand même.
Le Milli Vanilli, quoi.
Anglais, il y a quand même eu téléphone.
Ouais.
Il y a quand même eu, tu vois, il y a quand même. Bien sûr qu'il y a eu des très bons. Mais la masse, c'était. Moi, j'arrivais, je. Putain!
Et c'était,
si je dois revenir en France, ça va être très dur.
Et c'était lié à quoi? C'était quoi les maisons de disques qui dictaient un petit peu le truc et qui cherchaient surtout le profit, pas trop la créa?
Il y avait aussi le truc, je l'ai tellement ressenti, ça, moi je voulais ressembler à de la musique américaine, si tu veux, ou de la musique, le son anglais, mais j'aimais bien l'esprit américain. Donc j'ai fait un petit peu dans mon milieu, on me le reprochait. Donc à des chanteurs français, on leur reprochait beaucoup.
Ouais. D'accord.
Soit un top 10 dans ton, combien de fois je l'ai entendu, soit un top 10 dans ton pays, peut-être que d'être 42 dans le monde, tu vois.
Ouais.
C'est l'envers de l'audace, c'est l'envers des années 70. Les années 70, regardez tout ce qui s'est passé. Je parle au-delà de la musique, hein. C'est que de l'audace. Warhol, quand il est venu, on a dit que c'était du négatif. On voit le résultat aujourd'hui.
Il y a un élément sur lequel j'aimerais revenir. Je parlais là dans cette partie un peu de développer ta carrière, de gérer aussi les tubes que tu as eus, etc. Tu fondes quand même un label, Maligator.
J'ai pas le choix. Parce que j'ai des magasins, je vais très très bien, ça cartonne. Mais pour faire fabriquer des disques, c'est pas un magasin de disques qui peut faire fabriquer dans une major qui fabrique les vinyles. Faut un label. Et on me dit, faut que tu aies un label. Et un label, c'est quoi? Déjà, il m'a fait expliquer c'était quoi un label. Ça n'existait pas, des labels indépendants. Donc j'ai mis Maligator, j'ai monté mon label pour avoir, avec l'insigne des Congas, d'ailleurs le crocodile, parce qu'il fallait que ça passe comme ça. Quoi.
En 76, c'est ça que font le label?
Le label se pond sur l'album en 73, oui.
73. Non, je pensais que c'est 76.
Non. Le label, le logo, je veux dire.
Oui.
Non, mon label, je le mets à l'époque quand je reviens avec la Vinci Manor où tout le monde me jette.
Ouais, c'est
septembre 76. Ouais.
Est-ce que quand même ça a ensuite été un truc que t'as pris à cœur, ce label? Est-ce que ça a été important aussi pour développer, asseoir ta carrière? Parce qu'il y a aussi l'aspect business quand même dans la musique. Il faut le prendre en compte, gérer ses droits, etc.
Oh, c'est vraiment, et les gens qui me connaissent, c'est pas vraiment la carotte. C'est pas ça ma carotte, moi.
Mais ça fait partie du métier, qu'on le veuille ou non.
Alors, l'avantage que j'ai eu, mon label. Évidemment, quand j'ai signé chez Atlantique, j'ai pas signé Serone, j'ai signé le label qui garantissait qu'il avait ses rentes dedans. Mmh. Ça m'a donné une liberté, laquelle, et on m'a suivi, Ahmet Ertegun me suivait beaucoup. Aux États-Unis, j'ouvrais même pas ma bouche, si tu veux, mais au niveau, par exemple, de la France ou de l'Europe, je voulais un tel, si la maison de disques me le donnait pas, c'était une lutte, parce qu'un label, c'est pas un artiste. J'ai jamais été un artiste de maison de disques. J'étais artiste et je suis toujours, d'un label qui s'appelle Maligator.
De ton label.
Voilà, et ça veut dire que je reste le patron de tout ce qui se passe. Et pour ça, c'était tout contrôler, pour être sûr que chacun à sa place fait son truc, que toute l'équipe, que là encore, on est nombreux, hein, tout le monde a son truc, et c'est passionnant quand tu essayes de toujours faire des bonnes choses. Et quand tu es dans cette dynamique, il y a plein de choses qui se passent. L'année dernière, j'étais déjà très content de faire bien des festivals, tu vois, comme Glastonbury en Angleterre, comme Sonar en Espagne, ou comme les Vieilles Charrues en France. Et l'année dernière, encore une opportunité d'être sur le quai de la gare. Mon manager se fait appeler, c'était en janvier 2023, par la ville de Nice, la personne de la culture, et qui lui dit, écoutez, on a un concept qui s'appelle « C'est pas culture ». Non, c'est pas classique, pardon. C'est pas classique. D'accord. On a fait tout le répertoire de Bowie, de Gainsbourg et de Prince. Et on aimerait bien faire Serone, et en plus, il est vivant encore, lui. Il me dit ça, il m'appelle, il me dit, je te donne en mille en ce qu'on me propose. Est-ce que tu serais d'accord de passer ton répertoire en symphonique? Je dis, il l'est déjà.
Il a sorti ses bandes.
Il est déjà les cordes. Sauf qu'on faisait les cuivres. Un autre jour, on faisait les cordes. Sauf qu'un symphonique, tu l'as fait tout ensemble.
En même temps.
Et je dis oui. Sauf que les choses se sont confirmées. En avril, je me suis dit, putain, qu'est-ce que je me suis mis sur le dos? Faut y arriver là. Bref, je l'ai fait. On l'a fait le 3 novembre 2023, donc il y a même pas un an encore. À Nice, au Nikaya, c'était archi blindé, c'était un tel carton. C'est ça qui m'a amené les Jeux Olympiques.
Ah ouais?
Ah bah voilà. Donc c'est des opportunités. À toi d'être à la hauteur, de ne pas être mytho. Pas dire oui à n'importe quoi, t'imaginer que. Mais.
Ce qui va t'amener aussi d'ailleurs à bientôt, tu vas refaire une version symphonique à la Philharmonie.
On va faire une tournée dans le monde, c'est fou quoi. Ouais. Et là, on fait le 21 février. On m'a appris d'ailleurs tout à l'heure que c'était sold out. On fait le 21 février au Philharmonique de Paris. Et
je précise juste dans le cadre parce qu'il va y avoir une exposition dédiée au disco.
Voilà.
Et ils font une grande soirée d'ouverture et ce sera toi qui joueras. Donc.
Voilà. Et
c'est déjà rempli ça. Genre, il n'y a pas des petites places là pour les petits frères?
En prod, peut-être. En achetant sur le web, non.
On verra ce qu'on peut faire. On a compris.
Et ça doit se balader. On est en train de parler avec un peu partout, que ce soit la Corée, que ce soit Melbourne en Australie, que ce soit un peu partout quoi.
Et tout ça, ça incroyable. Part de donc des JO qui part aussi de Nice finalement, et qui part d'une opportunité.
Complètement. Non, ouais. J'ai pas été chercher ce truc-là, tu vas pas. Et je voulais pas passer. Puis je voulais surtout pas faire ça. Pour que, comme beaucoup d'artistes, ils passent leur catalogue en symphonique. Mmh. Ça intéresse pas grand monde. Mmh. C'est du respect, mais ça intéresse pas grand monde. Moi, le truc, c'était de garder l'originalité et de le mélanger avec mon côté DJing électro. Donc, il fallait retravailler. Et quand je me suis retrouvé quelques jours avant de le faire, j'ai pris une peur en me disant, waouh.
Donc, c'est-à-dire, t'as, après 50 ans de carrière, t'as quand même
encore... Pourquoi je me fais chier à prendre ces risques? J'ai pas besoin, quoi. C'est quoi la carotte?
Bah, excité un
c'est
peu.
C'est adrénaline. Ouais. Mais j'ai toujours le track, même quand je fais un set. Ouais. Dans un club de 1000 places, ça m'arrive parce qu'il y a un club branché, machin, on me dit, vas-y, fais-le. Bien sûr, t'as toujours le track. Enfin, j'ai toujours le track.
Pour revenir à Melligator, t'as produit d'autres personnes ou pas? Ou c'était unique cette
soirée? Oui, j'en ai produit. J'ai eu la chance un jour, on m'appelle, c'était en 84, je crois, 85. On fait appeler par Michael Jackson, que j'avais croisé chez Atlantic, qui me demande de produire sa petite sœur.
Mais c'est sur Melligator après?
Ah non.
Ah non, oui,
ah,
non,
tu parles
oui,
sur Melligator,
oui,
pardon.
Oui, je précise. Oui, c'est évidemment que t'as produit pour d'autres personnes, mais.
Sur Melligator, non, j'ai eu Congas, Donnerre, Révélation. Peut-être un ou deux que j'oublie. Non. Puis j'ai pas envie, en plus.
Ah, oui, donc le but du label, c'était pas non plus qu'il devienne une entité
non,
qui échappe à ta musique, quoi.
Il y a aucun calcul. Je l'ai pas fait exprès. J'ai fonctionné comme ça au début. On change pas un truc enfin, moi, je change pas un truc qui fonctionne.
Non, mais t'as pas voulu développer ça plus que ça.
Ça fonctionne. Ouais. T'es heureux avec ce que t'as, tu vas pas aller bouger. Donc, au contraire, tu vas tout faire pour le consolider. Donc, tout ce qui sort chez Melligator, c'est tout ce qui est fait par moi. Ben, par contre, il y a des trucs que je produis ou que je coproduis
pour d'autres
labs qui sortent chez Sony, chez Atlantique.
Oui, ça, bien sûr.
Comme avec Jamie X, par exemple, comme avec Purple Disco, comme avec plein de gens.
Bah justement, ça, tu as fait plein de trucs aussi, j'avais noté...
Comme avec Marc Lavoine d'ailleurs, c'est pas sorti... Ah si, c'est
sorti. Sorti le single, il est
c'est
sorti.
C'est sorti chez Melligator. Mais...
Ah c'est chez Melligator,
non, c'est Because, c'est Because.
Attends, on peut voir ça. Non, c'est Because, ouais, t'es sûr?
Ouais.
Ok. Non, il y a...
Comme quoi je m'intéresse, mais pas tout de près. Hein.
parce que des collabs, etc., ça évidemment que t'en as fait plein. Bon, il y en a une qui m'a marqué, c'est ça a dû être un truc pour toi, je pense. C'est sur un EP, t'as bossé avec Tony Allen.
Ouais,
pas mal ça quand même. Donc batteur historique évidemment de Felacuti et légende absolue.
Tu racontes comment ça s'est fait?
Vas-y.
C'est un mec de chez Vicos qui me dit tu connais Tony Allen? Bah bien sûr je connais Tony Allen. Roi du chauffol quoi. T'es, évidemment. Et il me dit vous devriez vous rencontrer. Et après je sais plus comment le hasard dans un concert il était là. On a pris un pot et puis on s'est donné rendez-vous au studio. Alors là, c'était un peu comme avec Lelo. C'était 11h au midi du matin. Studio. Putain, je rentre dans le studio, c'est la fumée. Ça sentait le pet. Il y avait 2 heures qu'il était là. C'était incroyable. Et qu'est-ce qu'on fait? Sérieux, on prend la batterie. Ils avaient mis deux batteries. Donc lui, il fait son truc. Puis moi, je joue par-dessus. Et puis on enregistre. Et puis je pars avec. Et Tony il me dit qu'est-ce que tu vas faire avec? Je lui dis j'en sais rien, fais-moi confiance, je vais composer un truc dessus, je te l'envoie, ça tu aimes, t'aimes pas, puis voilà, on s'en fout. Et il m'a dit mais t'es génial, on te sort. Je lui dis attends, il y a rien de prévu, c'est une rencontre. Et en fin de compte, après j'ai peaufiné la prod et on l'a fait, ouais. Quel souvenir, je suis rentré chez moi en milieu d'après-midi dans un état.
Ouais.
Ah mais il fumait 15 pétards par jour.
Déjà.
Ah c'est mais je plaisante pas. Et il jouait hein.
Et il jouait droit.
Ah il jouait, il tenait quoi.
Ouais.
Et on l'a même fait en scène, on l'a fait en concert.
D'accord. Donc on parle bien du morceau Second Chance, on est d'accord. Hein.
Ouais, comment il s'appelle?
Ouais, Second Chance.
Second Chance, oui bien sûr.
Ouais, qui apparaît sur c'est un EP afro je crois ou.
C'est passé en 10 secondes.
Ouais bah attends, c'est un extrait bien sûr.
Donc ça c'est Tony Allen. Il a fait ça à midi avec un énorme pétard dans la tronche. Hein.
Très cool.
peu le même genre de groove à la batterie que j'avais fait qu'à sampler Run DMC.
Ah. Et d'ailleurs, sur ce même, je crois que c'est un EP, sur ce même EP, y a, vous avez repris Funk Makossa avec Manu Dibango.
Ouais, bah du coup, j'ai croisé Manu, que j'avais croisé 1000 fois avant. Il me dit, oh, t'as fait un truc avec mon pote, on fait un truc tous les deux. Bah ouais, viens au studio. Et on l'a fait. Tout ce qui est afro, moi, ça me parle. Je sais pas si c'est ma mère qui a eu des attirances, peut-être quand elle était enceinte. Mais je sais, peut-être parce que je suis batteur, quoi.
Ouais, le rythme.
Ouais, j'aime rythmique. Beaucoup l'afro, ouais.
Il y a un autre truc. C'est, je connaissais moins ta discographie, moi. Je dirais fin 80 et 90, globalement. Jusqu'à, parce que, alors ça, tu lis un truc que tu as déjà dit, clairement, le Ceron by Bob Sinclair qui sort en 2001, c'est un truc où donc, tu confies à Bob Sinclair l'idée de réinterpréter tes morceaux.
Pas du tout.
Non, c'est pas comme ça.
Pas du tout.
Ah, vas-y, raconte comment ça se passe.
Surtout pas. Il a interdiction de ça.
En tout cas, c'est une forme de set quand même qu'il a fait, non ?
Laisse-moi t'expliquer.
Ouais, vas-y.
On fait I Feel For You.
J'ai plein de conneries aujourd'hui.
Pas du tout. Non, mais je te recadre. on fait un gros hit monde, I Feel For You.
Ouais.
D'accord ? Avec un gros sample à moi qui s'appelle, qui vient de Look For Love, dans mon album 4. Et bah ça crée de l'amitié, quoi. Et un jour Pascal Nègre, qui était Universal à l'époque, ouais. Et j'étais chez Universal à l'époque en distrib, il me dit, écoute, ça serait bien que tu sortes un best-of. Je dis, mais arrête,
ça c'est là-dedans. Vraiment une idée Pascal Nègre.
Il me dit, écoute, avec le nombre de samples, avec le nombre de titres avec qui t'es associé, rien qu'avec ça on pourrait faire un album. Et j'ai pas envie, bref, ça rame un peu. Au bout de quelques mois, un jour, dans un déjeuner avec Chris, avec Bob Sinclair, je lui dis, écoute, j'ai une idée, est-ce que ça te brancherait de chez toi, dans ton ordi, dans ton studio, tu fais un set de mes albums, mais tu pars en vinyle, pas de calage, tu fais vraiment un set live comme si tu ferais dans un club. Ah, il me dit, ouais, c'est cool, ouais, je peux essayer. Il le fait, et il le fait vraiment bien. Il va fouiller les enchaînements, comment il est placé, il le fait vraiment bien. De là, je l'envoie à Nègre qui me dit « Wouah, ça va le faire grave ». Je dis « Ah bon, tu crois ? » Il faut un single. Et le seul single qu'on voulait, c'était « Give Me Love ». Sauf que c'est l'un des seuls albums, enfin, track où j'ai perdu les stems.
Ah merde.
Qu'est-ce qui s'est passé ? Je sais pas ce qui s'est passé.
Donc, sachant que c'est un morceau important pour toi en plus, quoi.
Ah ouais.
Merde.
Donc j'ai reconstitué les stems, enfin le titre, à travers des bouts de sample de l'original, de la reprod ici et ça. J'ai refait les voix à Los Angeles et je l'envoie à Pascal qui, résultat, on a fait plus d'1 million d'albums. Ça fait boum. Donc c'est vrai que ça réveille.
Ouais.
Là, Pascal me dit, Universal venait d'acheter l'Olympia. C'était pas en France encore, mais je faisais beaucoup d'allers-retours. Cet album a vraiment été gros en France, Give Me Love aussi. Et il me dit, fais l'Olympia, recommence les concerts. Et si ça, je dis, waouh. Là aussi, je réfléchis quelques jours. Je dis, donc, tu m'as dit que vous avez acheté l'Olympia. Lâche-moi l'Olympia dans un concept. On n'ouvre pas à 21h, 20h. À minuit, on fait la plus grosse discothèque de Paris. Et je le fais avec un carré VIP. Je fais, voilà. Et on l'a fait un carton. On l'a fait 4 fois en 2 ans. Ça crée, tu vois, je commençais à venir de plus en plus en France. Le côté montage de grands événements commence à me manquer. Et un jour, avec ma femme, on va déjeuner à Versailles. Je te promets que c'est la vérité. On va encore le quai de la gare. On va on déjeune. Je vois on est devant le château de Versailles et je ferais bien un concert ici. Elle me regarde, elle me fait, bah oui, mon chéri. non, mais je déconne pas. On rentre dans la bagnole, j'étais déjà en train de tout monter dans ma tête. Le lundi, j'appelle avec les connaissances que tu te fais, que ce soit de préfet,
réseau,
de ministre de la culture, de machin. Puis après, quand t'as un nom, ça aide un peu aussi à ouvrir les portes. J'appelle le préfet, j'appelle le ministère de la culture. J'aimerais faire un concert à telle date. Et je veux pas une date de 14 juillet pour ces. Non, je veux une date à moi et je choisis le 2 juillet. Tout le monde me donne un avis favorable. Je demande un rendez-vous avec le maire de Versailles, je lui propose. Il me dit oui, mais le 14 juillet, comme ça, vous faites avec le feu d'artifice. Je dis non, dans ce cas-là, je ne le fais pas. Il me rappelle et il me dit, écoutez, on a réfléchi, mais le financement, ainsi et ça. Bref, on a tout trouvé. J'ai fait ce concert le 2 juillet 2005 à Versailles. On a fait 100 000 personnes, tu peux le voir sur le web. Et là aussi, d'un truc t'amène à un autre truc. Jacques Lang, que j'avais rencontré à l'époque du bicentenaire, m'appelle en me disant si je pouvais l'aider à trouver une idée pour faire le Live Aid, qui était le lendemain, le 3. C'était un petit peu des guéguerres politiques, ils n'arrivaient pas, ils se tiraient les boulets. T'as pas une idée? Je dis, tiens, t'es quand même mieux placé que moi pour avoir l'idée, mais je joue le 2 à Versailles sur une grosse scène rock'n'roll, hein. On attend, ça va être énorme. Je peux, on était 3-4 mois avant. Je peux peut-être demander au maire et à tous ceux qui me suivent si on pourrait garder 2 jours, démonter le 3e au lieu du 2e, parce que c'est quand même une autre cause. Bref, version courte, je l'ai fait. Donc le live s'est passé sur ma scène à Versailles.
Alors qu'à la base, c'était une idée comme ça que tu avais eue en déjeunant en face du truc.
Ouais. Je vous promets que c'est la vérité.
Ah, le quai de la gare, hein, vraiment.
Il est toujours là. Il campe sur le quai.
Mais je vois pas de train.
J'évoquais juste le Céron by Bob Sinclair parce que ça relance quand même un truc pour toi donc en 2001.
Complètement, oui.
Et les années 90, moi il y avait plein d'albums que je connaissais pas parce que t'as quand même été productif. Hein, c'était... Par exemple, tu vois, je pense à un album comme XX. Par exemple, et j'ai été étonné de cet album parce que je me suis dit, mais en fait, c'est une espèce de pop mainstream 90. Et je me suis posé la question, j'aimerais avoir ton regard. Tu me dis si je me trompe, mais est-ce qu'à un moment, tu t'es dit un peu artistiquement, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce qu'il y a eu quand même ce truc un peu qui s'est posé ou pas? Ouais.
J'ai pas eu le temps parce que quand tu fais le bicentenaire, par exemple, ouais. Tu vas pas faire un concert Céron.
Sur ces trucs, je comprends, mais sur les compositions, les albums originaux,
je suis en train de t'expliquer. Ouais. Comme j'étais embringué à produire des gros événements. Je te répète, avec des gros moyens où tu peux te prendre les artistes de la planète que tu veux, t'es le directeur musical, c'est ta musique, sauf que tu passes pas tes tubes. T'es obligé de faire un peu comme une musique de film, comme une musique de comédie musicale. Donc c'est très riche. Je me suis gavé de ça. Pendant 10-15 ans, c'était... Et puis je voulais pas être dans ce qui... J'ai pas aimé les années 80, comment ce métier s'est passé artistiquement.
80 ou 90 ?
80. Ouais. 90, ça commence à être pas mal. Il commence à y avoir des house qui commence à y avoir. Mmh. Ça commence à. Tu vois, les DJ commencent à naître. T'as des Laurent Garnier qui arrivent, t'as des Guetta qui arrivent. Pas ce qu'il fait aujourd'hui, mais ça a été un très très bon DJ. Moi, j'ai passé des soirées à aller l'écouter au Queen sur les champs où tu passais une soirée. Comme aujourd'hui, tu vas passer une soirée. Pourquoi aujourd'hui les DJ sont si artistes, si stars, reconnus comme tels et remplissent des stades? Parce qu'ils t'amènent dans un voyage, pour reprendre le terme de Lalo, ils t'amènent dans un voyage, quoi. Tu vas pas voir un mec. C'est vraiment un voyage musical.
Mais pour en revenir à cette idée de la composition, toi, de ce que tu veux faire, etc., tu vois, t'aimes pas cette période, tu dis, justement, tu t'y perds un peu
non,
dans cette
parce
période.
Que cette période, elle est trop à la recherche du tube. Les mecs, ils ont cherché les tubes, ils ont cherché à se faire connaître, gagner du blé, se faire connaître, d'être sous la lumière et faire du tube. J'ai jamais considéré la musique comme ça, sinon j'aurais pas quitté Congas, j'aurais pas... Tu vois, je m'estime que je suis capable de faire autre chose, et je l'ai encore prouvé là, parce que je me suis enrichi artistiquement, et ça m'a grandi, de produire des gros événements, ça m'a fait traverser des périodes que j'aurais pu peut-être traverser avec la nostalgie en regardant derrière, essayer de m'accrocher, me coller à des styles. Alors évidemment, il y a eu des périodes où mon style était... Ça parle pas, quoi. Je suis jamais tombé dans la sbinerie, mais je suis tombé dans des périodes, certainement. Mais j'en ai pas été touché, parce que quand t'as des gros événements comme ça, quand t'as une comédie musicale à faire, musicale, à Broadway, dans un théâtre, au Ed Sullivan, qui reste un an, je peux te dire que c'est prenant, quoi.
T'as même fait pour une adaptation d'Orange Mécanique, j'ai vu au théâtre aussi.
On m'a demandé de faire la musique. Vous êtes fous, la musique, elle est originale, elle est magnifique. On m'a demandé Bon, je l'ai fait. Ça te prend quelques mois.
Passer après Wendy Carlos, oui, c'est...
J'ai fait plein de musique, j'ai été... Au contraire, moi, je trouve que cette période, elle a été assez riche. Comme ma période d'arrêter Congas, monter des magasins de disques, m'a fait écouter autre chose, m'a fait comprendre plein de choses. Je pense que sans ça, j'aurais peut-être pas pondu Da Vinci Minor.
T'as dit un truc d'assez...
Ouais, non, en fait, c'est ça. C'est, tu changes de point de focus, en fait, et tu passes à autre chose. Ce qui t'évite effectivement d'avoir peut-être le blues des artistes qui ont connu un succès et qui essaient de s'accrocher à ce truc-là, à le réitérer.
Sans aucune prétention, mais je vous ai raconté un peu mon parcours. Si dans les années 80, j'avais pas eu ces grands événements, bah, j'aurais monté du business, j'aurais monté des affaires, toujours attaché à la création artistique. Musical, mais j'avais pas peur d'aller au cacheton ou de pleurer, que c'était mieux avant. C'est pas vrai.
Et puis pour parler quand même aussi un tout petit peu finance entre guillemets, j'imagine que de toute façon avec les tubes que tu avais, ton avenir économique il était assuré globalement.
Oui, j'ai jamais eu de problème, oui, bien sûr.
Donc tu pouvais aussi faire ça a joué,
là-dessus, j'ai joué plutôt plutôt la fourmi que la cigale. Et tu sais pourquoi ? Parce que j'ai pas eu le temps. De toute façon, j'ai toujours été très occupé. J'ai pas le temps de claquer tout mon blé, non.
C'est marrant d'avoir
c'était
fait
pas
la,
dans ma pensée.
D'avoir
bon,
fait la, non, fourmi, la fourmi d'un point de vue financier, alors qu'en fait, toute ta carrière, quand tu nous l'expliques depuis tout à l'heure, c'est plutôt effectivement un délire de cigale. C'est-à-dire, je vais à droite, je vais à gauche, je fais mes trucs.
Non, alors là, des mecs, vous le direz dans le métier profond, où j'ai toujours été très vigilant, des fois peut-être dur dans le business, essayer ça, pour gagner assez d'argent, pour tenir, parce que dans les années où ça marchait pas, je tenais. Et c'est ça qui m'a permis d'avoir les moyens de toujours avoir un ingénieur, de toujours avoir un studio à la maison, de toujours produire, de faire de la vidéo, enfin tous les moyens que t'as besoin. Et tenir 3-4 ans si ça ne faisait pas.
Ouais, si une dizaine.
À ce moment-là arrivaient les gros événements, donc ça a pris le chemin, si tu veux.
Tu sais, dans cette émission, nous, on tient beaucoup à ces aspects entre guillemets business, économique, industrie musicale, parce que ça rappelle aussi que c'est un métier en fait, être musicien. C'est pas seulement faire de la musique, il y a plein de trucs qui entourent ça pour en vivre, etc., qui sont importants. C'est un métier. Dans ta carrière, tu as eu l'impression qu'il y a eu des moments importants d'apprentissage de ton métier. Ça a duré longtemps. Très vite, tu as été à l'aise avec cette idée de métier de musicien. Est-ce que ça comporte aussi de trucs extra-musicales, presque, j'ai envie de dire, tu vois ?
Je dirais que c'est le Club Med. je remonte loin. C'est le Club Med où là, il a fallu que j'analyse, comprendre, avoir les couilles de me dire si c'est mon blé. Prendre des musiciens, il y en avait un qui était à Montpellier, il fallait payer le transport. Toi, tu t'engages, quoi. En plus, j'étais le plus jeune du groupe. Ceux qui étaient à Paris, c'est facile, on répétait, c'est toc. À chaque fois, j'ai perdu le fil de la question, excuse-moi.
Autour du métier, l'apprentissage du métier, ce qui peut être.
Là où j'ai vraiment appris, c'est aux États-Unis, chez Atlantique. Là, comment ils analysent, comment ils pensaient les choses. C'est de là où est venue l'idée de couper le mot en deux, disco. Parce que trop de mots, trop d'infos, enfin tu sais, tous les trucs qui sont banals aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était des mots qui sonnaient, mais qui valaient dire quel sens. C'était pas facile. Là, j'ai appris mon métier aux États-Unis. Brut de décoffrage. Mais eux, ils l'ont bien pris, comme cette télé dont j'ai expliqué tout à l'heure. Ils l'ont pris, au contraire, c'est attachant. Alors moi, que j'avais peur, tu vois. Souvent, je doutais. Quand je suis rentré des Grammy à l'hôtel, j'ai posé mes trucs. J'avais peur que... Attends, ils vont s'apercevoir de quoi tu te demandes. Puis tout ça va très, très vite. Et j'ai aussi, encore aujourd'hui, toujours une extrême valeur de la famille. Et moi, d'avoir un foyer avec des enfants et d'avoir des racines, parce que j'ai été élevé comme ça, dans une famille extrêmement modeste, mais avec beaucoup d'amour, beaucoup de bonne morale, de machin et tout. C'est même pas que tu essayes, c'est dans ton gène, tu le refais. Et si tu analyses ou tu crois, quand on te dit t'es un génie, t'es le plus grand, t'es le numéro un, mais tu te rends pas compte.
Mais tu vrilles, en fait.
C'est ça un petit peu qu'on appelle dans les gens qui n'aiment pas le choc.
Mais je t'ai entendu dire dans des interviews, dire à un moment, on me disait que j'étais un génie, j'y ai un peu cru. Je t'ai déjà entendu dire un truc comme ça.
Non, je crois pas.
C'est vrai.
Mais non. Peut-être que j'ai. Non, mais tout va bien, je vis bien avec moi-même. Est-ce que, en plus clair, ça veut pas dire qu'elle est pas claire ta question, mais est-ce qu'à un moment donné, dans ma carrière, j'ai eu la tête ? Probablement.
Il faut quand même un minimum.
C'est pas qu'il faut ou faut pas. Probablement. Avec ça, t'as envie de couper des ponts avec certains, mais bon, j'ai pas eu trop de reproches et trop de nettoyage à faire à des
périodes. Oui, t'es toujours resté ancré quand même.
Mais je l'accepte de dire, si ouais, moi je l'ai connu dans les années 80 ou 79, le mec, peut-être.
T'écriras à nos amis des Inrock parce que c'est eux qui disent ça dans une interview avec toi. Voilà, ils te citent, c'est dans une interview.
Allez, salaud. Ouais, mais ça date de quand? Attends, ça date de quand?
Ça date de quand? Ça date de 2016.
Ouais, ça va, c'est bien, 10 ans, ça va. Ça
je
va.
Dis pas que des conneries dans cette émission, ok?
C'est du vrai travail journalistique, hein. Bravo Salman, franchement, professionnel.
Je crois qu'on a fait un beau tour. Si, c'est quoi ton
actu? C'est très agréable en tout cas.
Ouais. Bon, tant mieux. C'est quoi un peu les prochains trucs importants pour toi là qui vont sortir? Oh, il y a la Philharmonie qui va arriver.
Alors,
un peu l'actu, tu vois.
Il y a l'album Live Symphonique qui a 22 titres, je crois, dans mon catalogue, avec les orchestrations originales, mais avec la pensée. Tu vois, comme quand j'ai pris les platines, d'ailleurs, c'est pas pour faire mes cachetons de fin de semaine, parce que je suis un vieil artiste, pas du tout. C'était pour découvrir, et je l'ai vachement bien découvert. Et les édits, en tout cas, c'est un bel album. Je suis assez fier de cet album. Donc, ça sort le 21 en même temps que le concert. Après, j'ai une ribambelle de concerts et de festivals en 2025. J'ai des collabs, certaines fêtes, et ben non, il y a l'année 25 sera.
Et de l'actu.
Sera,
et t'as la pêche.
Ouais.
Bah, ça se voit. Bah,
la pêche. Attends, t'imagines l'adrénaline que ça te secoue. Alors, quand tu te recoues, tu veux que je te donne un exemple?
Vas-y.
Quand tu fais le bicentenaire, c'est facile, t'as tout fait avant, tu regardes les images, la Tour Eiffel qui danse. On m'avait dit d'ailleurs, tu vas faire danser la Tour Eiffel. C'est vrai que je l'ai fait danser. Mais, quand tu te retrouves devant, seul, alors que j'ai fait 40 ans de scène avec à 14 sur scène avec des musiciens, des fois des cuivres, tu vois, une grosse équipe. Quand tu te retrouves sur une scène de rock'n'roll, t'as Sam Smith, Gossip, t'es en troisième, quatrième, c'est Guetta. Sur une scène rock'n'roll avec un tout petit pupitre, t'as 60 000 personnes qui t'attendent devant. Là, je peux te dire
les miquettes,
l'adrénaline, mon vieux, tu peux pas vieillir. Et ça s'est incroyablement passé, c'était fabuleux, fabuleux. J'adore faire ça.
Pourvu que ça dure, du coup. 50 ans, c'est quoi la prochaine étape? Le centenaire?
Le centenaire.
Allez.
Non, en live.
Non, il y a un moment donné, la tête, elle peut rester. C'est ça,
ouais, mais on sent quand même qu'en fait, t'as toujours la patate et tout.
Et après, d'autres
tout,
projets. Je pense que c'est la scène qui devra, à un moment donné, se calmer, parce que je fais encore beaucoup de dates.
Ouais.
Mais après, j'ai plein de projets dont je quitterai pas la scène encore. À moins d'un accident, j'espère pas.
Bah non.
Marc, tu sais, on a une tradition pour terminer cette émission.
Oh,
on termine avec des recommandations musicales. C'est-à-dire que chacun, on va commencer avec Das, si tu veux.
Ah bah super.
Un peu réfléchir.
Ok.
On conseille juste à nos auditeurs et à nos spectateurs un morceau qu'on a trouvé cool récemment, soit un truc qui est important pour toi depuis longtemps, soit un truc que t'as découvert. Enfin, ce que tu veux, que t'as envie de faire découvrir aux autres, en tout cas.
Oh là là, j'ai pas la mémoire.
C'est vrai.
Vous m'aidez là alors?
Ouais, on peut t'aider un peu. On peut te laisser réfléchir. On peut commencer avec Daz si tu veux.
Bien sûr.
Et puis, tu peux demander conseil autour de toi. Non, j'en sais rien. Est-ce que t'écoutes de la musique à la maison des fois? Pas ta
non,
musique,
pas jamais.
Bosser,
non.
Mais, tu vois, genre écouter, prendre, faire une session, t'écoutes un peu des trucs et tout.
J'écoute
pas de toi.
Plutôt d'autres trucs, c'est quand je vais faire des concerts, parce qu'il y a toujours une première partie, une deuxième et un deuxième DJ. Okay. Donc je suis.
Ok. Ouais, j'écoute ce qu'ils font. Ouais.
J'écoute.
Est-ce qu'il y a des gens que t'as croisé à ce moment-là en concert, en festival, j'en sais quoi, où tu te dis putain c'est cool ça?
Oui, bien sûr.
On saura pas lesquels.
Ouais, il y a 7-8 ans.
J'essaie de t'aider.
Un mec qui m'a scotché, je suis passé avant.
Vas-y.
Je devais passer vers 21h, il passait à 23h. C'est Snake.
Ah,
ouf.
Ouais.
DJ Snake.
Alors, je parle, il y a 5, ouais, c'est à peu près 5-6 ans.
Ok.
J'aime un peu moins ce qu'il fait aujourd'hui. Un peu comme tous les Kevin Harris, comme les Guetta, comme les machins. Ils sont tombés, je trouve, dans un... Sans vouloir être méchant, hein. Ils sont tombés un peu... tu vas à un concert et te demandes si tu vas pas écouter une radio, quoi. Tu vas...
Et okay. C'est pas le pire Snake, je trouve, encore, en plus, dans ce délire.
Oui, c'est pas le pire.
Ouais.
On citera pas. Mais c'est pas le
pire. On l'a déjà bien cité, je pense, mais ok, on va pas le dire.
Par contre, je l'ai vu travailler, faire produire, parce que c'est de la production musicale, ce que tu fais sur scène quand t'es DJ. Il appuie pas sur le bouton, il laisse passer. Non.
Et éventuellement, est-ce que tu aurais un morceau de DJ Snake en tête ou pas? Ou pas, ou difficile?
Ouais, mais faut que j'en écoute plusieurs.
Ok.
Aidez-moi.
Attends,
alors passe-moi.
Aidez-moi.
C'est ses débuts. Dès que, il y a 5-6 ans.
Oh, alors, je peux essayer de trouver ça. Il y a 5-6
bah,
ans.
Tu tapes à 2017, 2018.
Il y a encore en 2016 un album qui s'appelle Encore, avec des morceaux comme Intro, Middle, Sahara, Sober, Pigalle, Talk, Ocho Cinco, The Half, Let Me Love You avec Justin Bieber.
Ouais, c'est très bien ça.
C'est vrai, tu veux avec Justin Bieber? Allez, vas-y, on met ça, c'est un Let Me Love You, elle sort un peu nulle part, mais on la met quand même.
2 milliards de streams quand même, pardon.
Ah mais... oui, non, mais c'est comment on est arrivé à l'écouter.
Ah oui, d'accord, ok. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle. Très pop dance, mais
ah oui,
très bien
très,
produit.
Très très pop dance. Le refrain efficace.
Oui, hein, oui, ouais, bah, ouais, ça marche, ça marche.
Très efficace, bien sûr.
Marche, c'est, moi, il y avait le morceau. Alors, c'était un gros featuring, et puis c'était un méga tube, c'est absolument pas original, mais Linon, moi, ça m'a mis une claque. C'était incroyable. Daz, t'as
alors, alors vous
ouais, bah ouais, bien sûr. Vas-y,
alors, Marocco, alors, est-ce que tu peux me rappeler ce que j'avais Rocco la dernière fois pour être sûr de pas.
Ah ouais
tu l'as dans la.
Ouais, si, ah oui, t'as raison, ouais, attends, ouais. Je l'ai dans mon Spotify. Attends, hop. Épisode 77, c'était.
Ah bah oui, c'était Twista, ok, très bien.
C'était Twista.
Alors là, on va à San Francisco avec un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Larry June.
Très bien.
Qui a sorti un album qui s'appelle The Great Escape, produit par The Alchemist, je le rappelle. Award du meilleur producteur, beatmaker.
On en parlait sur Twitch il y a quelques jours.
Voilà, exactement. Et les jeunes sont énervés, mais moi je trouve que c'est totalement justifié. Le morceau s'appelle What Happened to the World, avec Wiz Khalifa en featuring. Et c'est du dascore 100%. C'est des bonnes vibes. C'est.
Sex, fifth pillars on the plane, thinking better days. Did a lot of shit in my life, but I never changed. 200 for the paddock and it's all plain. 2 point something for the crib and it's all paid. Niggas get a little bit of fame, start acting strange. Just because I showed a little love, down mean you gang. Just because I showed a little love down me gang. I'm still waking up, jaws. Vraiment un représentant de ce qu'on appelle la weed music,
oui.
C'est
où en fait t'écoutes ça en fumant des pets.
On est quasi dans le drumless là en plus.
Ouais, bah c'est Alchemist, hein, donc ouais. C'est vraiment, moi j'adore tous ces trucs là, vraiment tu chill et t'as justement des cuivres, des cordes qui sortent de Barry White, de tous ces trucs samplés dans les années 70.
Est-ce que t'es en train de dire que c'est de la musique pour Tony Allen, d'après ce qu'il nous disait Marc.
Oui, oui. Non, j'aime beaucoup, ouais.
Ok. Très cool cette reco.
Oui.
Et écoute, ma reco pour terminer.
Alors.
Oh, et je vais mettre un truc un peu jeune et un peu que j'ai découvert en club. Comme ça, voilà. Petite
Trèfle
à Marc.
Tu veux dire en discothèque.
La musique ouais. De conclusion, alors.
Exactement. C'est parce que je faisais écouter au début une chanteuse R&B qui est hyper bien, qui s'appelle Erika de Casier, je sais pas comment il faut le prononcer exactement, qui a sorti un album Steel, qui s'appelle Steel, qui est vraiment très très bien, de R&B
effectivement,
contemporain, moderne.
Effectivement, c'était chouette, tu l'as fait écouter.
C'est hyper bien, c'est sorti cette année.
Ah, cette année, d'accord.
Ouais, c'est sorti cette année, Steel, mais je vais pas mettre un extrait de Steel, parce que je l'ai découvert, après je suis allé écouter son album solo, mais je l'ai découvert en fait en featuring sur un morceau beaucoup plus électronique, qui est très... très très club, un peu mainstream, un peu reggaeton presque sur les bords, etc. Enfin bon, et puis la voix est ultra moderne, elle est vachement traitée, tu vas voir. Mais le truc très drôle, c'est que j'étais marqué par ce morceau parce que j'étais dans une soirée
qui était un peu dur, en fait, un peu rude en vrai dans le son, tu vois. Mmh. Et il y a eu un moment un peu pop entre guillemets.
Suspendu comme ça.
Et là, ça m'a marqué et j'ai adoré. Donc j'ai gardé le morceau, tu vois.
Donc en fait, t'as aimé parce que t'as pas aimé le reste de la soirée. Et ça,
non,
c'est quand même incroyable.
C'était bien, mais juste, tu vois, là, cette facilité mélodique, tout d'un coup, je fais ah, on respire quand même. Bref, donc c'est du Nick Leon et Ricard Casier, ça s'appelle Bikini. C'est bien pour faire la fête en gros.
J'imagine tout à fait dans une ambiance rude, t'as ça qui passe.
Étonnant, hein?
Ouais.
Salman se raccroche à ça comme à une bouée.
Ça tourne à combien? À 140 là?
Ouais. Limite, ça part en two-step.
Ouais, voilà. Et c'était
très très bien.
C'est ouais, bien en vrai.
C'est, c'est audacieux, c'est bien.
Très très cool.
Et j'ai été étonné, je termine juste sur cette soirée. C'était une soirée de jeunes qui passaient de la techno essentiellement. Et ils sortaient des espèces de medley avec une techno hyper dure et avec des gros acapellas de Rof, de Booba par-dessus, etc. Et c'est vraiment, tu vois, un truc de, que tu sens.
Ce qui est incroyable.
La culture rap a inséré partout, tu vois.
Ce qui est incroyable, je sais pas si vous avez remarqué, probablement. Moi qui passe ma vie avec les DJ à tourner, comment la techno s'est fait attraper par les nanas, par les DJs. C'est incroyable.
Il y a des les stars à la Amélie Lenz,
mais
etc.
Attends,
bien sûr. Mais c'est dur parfois pour elle. Hein, la légitimité, etc., elle est parfois dure à.
Écoute, aujourd'hui, la techno, c'est elle qui l'ont. Hein.
Oui, ça, c'est sûr. Il y a des exemples français, je pense à Aneta, je pense, etc.
Elles l'ont mis, attends, elles sont passées devant.
Et ben, terminons avec ça.
Une note d'espoir.
Marc, encore merci d'être venu dans l'émission, c'était hyper cool.
Merci à vous de m'avoir invité.
Ouais, c'était très chouette.
On en profite pour remercier quand même évidemment la bouclette,
bien sûr,
pour la technique, Flav, Iris, Pilou aussi.
Pilou sur
pour
l'émission.
Pour la première fois.
Ouais.
On remercie aussi François pour le montage, bien entendu. Thoman, notre partenaire. Thoman.
Bien sûr.
Est-ce que tu achètes parfois chez Thoman, Marc?
Par hasard.
C'était déjà arrivé, tes magasins de musique en ligne. Non, tu connais pas.
Non.
Ça marche pas à tous les coups.
Normalement,
en général, on nous dit bien sûr, j'achète.
C'est pas grave.
Merci Thoman.
Cela dit, pour l'inviter, vous êtes content de vous là?
Ouais, c'était plutôt pas mal, non?
Non, mais Thoman, c'est quoi le propos derrière là?
En fait, c'est eux qui nous paient. Donc, c'est pour ça qu'on les remercie.
Je plaisante.
Et puis nous, on se retrouve. On remercie aussi évidemment nos auditeurs. Laissez un petit commentaire, un petit pouce machin et compagnie. On se retrouve dans 15 jours. Nouvel invité, nouveau sujet. Ça sera forcément bien.
Il sera moins bavard.
Non, on espère qu'il sera aussi bavard.
Oui, on espère. On aime bien qu'on se fera.
Dans 15 jours. Ciao.